Amis de la dissidence, bonsoir. Ça va ?
Il n'y a pas d'écho.
J'attends toujours qu'ils répondent, mais personne ne répond
personne
jamais.
Personne n'y répond jamais.
C'est étrange.
Eh bien, bonsoir.
Non, mais t'es pas auditeur, toi. T'es participe à l'émission, ça vaut pas. Moi, j'aurais que les auditeurs crient.
Oui !
Voilà, c'est ça, puis qu'on les entende. Mais ça marche pas. Ce soir, le programme. Je donne le programme, comme d'habitude, pour que les auditeurs pas intéressés puissent aller regarder... comment ça s'appelle, Star Academy ? Docteur Dor, oh là, ça y est, la moitié des auditeurs sont partis. J'ai entendu claquer les portes. Vous allez bien, docteur ?
Mais ça va bien.
Bien. On va vous demander, vous allez surprendre tout le monde en
oui,
annonçant une manifestation. Mais
c'est
bon.
Ça.
Ensuite, nous recevrons Philippe Randa et Philippe Gauthier pour deux livres antiracistes, vigoureusement antiracistes. Un livre collectif dirigé par Philippe Randa. Non, pas dirigé, édité.
Présenté. Co-présenté.
Ça fait chic. Qui s'appelle Vers la société multiraciste. Alors c'est de Jean-Jacques Matriguem et Philippe Randa, avec des signatures formidables de Archimède Montampis, Alain Dumay, Brigitte Bardot, Roland Gaucher, Brigitte Bardot.
Fondation Brigitte Bardot.
Elle écrit la Fondation Brigitte Bardot ?
Non, mais elle a des représentants qui donnent des entretiens.
Ah, c'est bien.
Fort courtoisement.
Oh, ça c'est pour le racisme contre le racisme anti-chien, alors.
Anti-chien, voilà.
Roland Gaucher, comment va-t-il, ce bon Roland ?
Ce bon Roland va très bien. Il est plein d'idées, plein de projets de livres.
Vous après moi ?
Non, dernière nouvelle, il avait d'autres...
D'autres
non, il fâche avec d'autres, quand même.
Nicolas Gauthier, Philippe Gauthier, c'est ton fils, non ?
Non,
ah, bon.
C'est moi.
Non, mais Nicolas.
Ah non, Nicolas, non.
Bruno Gerbrandt. Ah, Bruno Gerbrandt, c'est un garçon que je ne connais pas, mais c'est lui qui est parti tout seul au moment où la racaille a envahi la basilique Saint-Denis. Il est parti tout seul devant la basilique pour protester. Il a fait une manif auto-proclamée. C'est assez courageux, quand même. Alors, du coup, il y a des gens qui l'ont suivi, mais au début, il était vraiment tout seul. Jean-Paul Gourevitch, Guillaume Faye, Pierre Lassieur, Jean-Jacques Matriguem, Catherine Maigret, Fabrice Robert, Jean-Claude Rollinat, Jean-Pierre Rondeau. Très bien, Jean-Pierre Rondeau.
Je ne te fais pas dire.
Très bien. Il m'a envoyé une lettre récemment, très gentille.
Je croyais qu'il avait pris un abonnement au Libre Journal.
C'est pas exagéré non plus. Marc Rousset, Charlotte Sawyer, c'est la... La sœur de Tom, alors.
Voilà. Oui. Une journaliste américaine.
Ah, il sait. Philippe Randa, Robert Stöcker, très bien aussi. Et Dominique Zardi. Dominique Zardi, il a fait quelque chose là-dedans ?
Il a fait une contribution, bien
il
sûr.
Il a fait un bouquin très très marrant, Dominique Zardi, aux éditions du Alpha.
Oui, j'ai réédité son livre sur la rue des Rosiers, préfacé par Simone Signoret, sur l'autodéfense du quartier du Sentier après l'attentat chez Joe Goldenberg. Il y a 20 ans, c'était l'anniversaire au mois cette année, quoi, en août
Zardi,
dernier.
Tout le monde le connaît, mais sans le savoir, parce que c'est un...
Tout le monde connaît sa tête,
un second rôle.
Peu connaissent son nom, sauf les amateurs de cinéma, mais dès qu'on montre sa tête, tout le monde le connaît. Il a joué dans plus de 500 films, c'est lui qui a le record de participation à des films. Mais effectivement, c'est un premier rôle de second plan ou de troisième plan. Il a joué dans tous les polars avec Gabin.
Et c'est probablement le type qui est mort le plus souvent au cinéma.
Sans doute, oui.
Oui, parce qu'il joue toujours des rôles de gangster et il se fait toujours sulfater dans les trois premières minutes du
film.
Voilà,
il tue parfois, mais il est tué souvent.
Oui, il est tué quand même par réciprocité.
Et il ressuscite.
Mais il a une tête incroyable, un petit bonhomme costaud avec le crâne rasé. Il est assez impressionnant, je veux dire.
Ah bah c'est en tout cas, ça présente marque dans les films.
C'est un ancien, on peut dire un petit voyou du Sentier, quoi, un petit.
Bah alors,
petit voyou quand il était gosse, je veux dire.
Il a eu une jeunesse un peu perturbée, un peu agitée, jusqu'au moment où il est devenu acteur de cinéma. Ce confidence me disant que le cinéma était pire que le milieu avec un grand M qu'il quittait.
Ouais,
voilà. Et parallèlement à ça, effectivement, il a pris l'autodéfense des gens du Sentier après cet attentat.
Alors c'est rigolo parce qu'il raconte le matériel qu'ils avaient et apparemment ça donne à penser que la rue des Rosiers est moins surveillée que certains autres lieux de Paris en ce qui concerne le contrôle des armes à feu.
En tout cas,
ils avaient quand même une mitrailleuse lourde.
Cette communauté-là, lorsqu'elle est attaquée, sait se défendre.
Oui, et puis elle a le droit, faut dire, contrairement à d'autres.
Donc à ce moment-là,
personne ne leur a rien dit.
Madame Fabius, qui s'était félicitée de l'existence des milices juives.
Non, mais c'était le quartier mis en autodéfense par Zardi était de notoriété publique. Philippe Bouvard en parlait dans France Soir.
Ah, mais je sais bien,
lui donnait des entretiens.
Quand j'habitais rue Notre-Dame de Nazareth en face de la synagogue de rue Notre-Dame de Nazareth, elle était gardée par des jeunes qui montaient sur les toits, y compris le toit de mon immeuble, avec des usis quand même. Au sud de la police qui disait mais c'est un accord avec le commissaire. J'ai dit mais enfin écoutez, vous êtes bien gentil, mais c'est pas le commissaire qui fait la loi quand même. Il reste que le port d'armes est prohibé en France pour l'instant, pour tout le monde. Apparemment pour tout le monde, sauf les gens qui avaient l'autorisation du commissaire du coin de se balader avec des mitraillettes. Bon.
Commissaire du coin ne les regardait pas. Regardait ailleurs.
Ouais, il avait la vue basse. Comme ils étaient sur les toits, ils pouvaient pas les remarquer. En tout cas, le bouquin de Zardi est très marrant. Mais c'est pas notre sujet de ce soir. Il viendrait à l'émission? Enfin, je l'invite un jour.
Invité, Serge, c'est à toi de l'inviter. Je peux lui faire part de ton invitation.
Voilà, je fais ça. Transmets-lui mon invitation si on parlera de cinéma et de mitrailleuses lourdes.
Voilà.
Et puis ensuite, donc, je reçois Monsieur Labbé Zins, qui est, on peut dire, théologien, chercheur indépendant en théologie, on va dire.
Oui, si vous voulez.
Anachorète, en plus. Alors là, vous, pour vous trouver, il faut vraiment faire appel à la Providence, parce que vous vivez caché.
C'est vrai que la Mayenne est réputée pour depuis très longtemps pour être une région pas très peuplée.
Il n'y a pas beaucoup de boîtes de nuit dans la Mayenne. Je ne connais pas.
Bien, comme je me faisais la réflexion avant-hier soir, à une heure de pointe dans le métro, je me disais dans cette... dans ce tram de métro, il doit y avoir au moins 5 ou 6 fois le nombre de personnes qu'il y a dans tout notre bourg.
Et alors là, vous n'êtes pas dérangé par les voisins. Et vous avez écrit... Alors, dire ce que vous avez écrit, c'est entreprendre, c'est le cas de le dire, un catalogue. Vous êtes un chercheur extraordinairement fécond. Je sais pas, vous avez publié des milliers de pages.
Oui.
Et des milliers de pages, pas de... Il ne s'agit pas du tout de, comment dirais-je, de divagation personnelle ou d'opinion personnelle. Vous avez fait un travail d'exégèse qui est extraordinaire.
Oui, sous un double rapport théologique et prophétique, et toujours appuyé soit sur les saints docteurs, soit sur les papes, soit sur la doctrine que personne ne peut remettre en cause, du moins quand on est catholique et qu'on admet la révélation.
Et dont les conclusions sont, enfin on verra ça tout à l'heure, les conclusions sont un peu raides à la toile quand même. Hein. Il faut bien reconnaître que dans la série des libéraux, vous n'êtes pas en tête de peloton. Hein.
C'est vrai.
Bien, ensuite Philippe Gauthier, enfin en même temps que Philippe Randa, on recevra Philippe Gauthier qui lui a écrit un livre tout à fait original qui s'appelle « Le racisme anti-allemand ».
Oui, tout à fait.
D'habitude c'est le contraire, hein, plutôt le racisme allemand, mais lui il s'est dit « ça a déjà été fait, on va faire le racisme anti-allemand ». Docteur Dor, quand faut-il aller, où, pourquoi?
Alors voilà, tout le monde est convié à venir samedi prochain au Chénet à 14h30 devant l'hôpital André Mignot. On y a déjà été souvent, il y a eu quelquefois des heures, parfois rien.
Les riches heures du Docteur Dor.
Donc c'était, nos opposants étaient surtout la CNT, ils venaient de Saint-Quentin ou de en Yvelines ou de Jussieu, enfin bon. Je ne sais pas si on les reverra.
CNT, c'est les canailles néo-trotskistes.
Ah bon.
C'est ça que veut dire CNT. Oui.
Chat noir turbulent, c'est comme ça.
Ah, ouais.
Ils ont un petit journal qu'on a eu d'ailleurs à plusieurs reprises et on voit un petit chat noir. Donc c'est samedi prochain, le 16 novembre à 14h, au Chénet, devant l'hôpital André Mignot. Alors, si j'ai encore une seconde pour parler, plus je vais, et je commence à déjà aller, je suis assez vieux déjà, je pense que donc que le combat, et surtout celui-là, est eschatologique. À un combat eschatologique, le mystère du bien contre le mystère du mal...
Alors attendez, il faut quand même préciser, on a parlé de la CNT, donc il faudrait pas qu'il y ait de confusion. C'est eschatologique.
Eschatologique, E-S-C-H-A, c'est-à-dire les fins dernières, bien entendu.
C'est ça.
Les fins dernières. Eh bien, donc c'est le mystère du mal contre le mystère du bien, et je ne vois, bien sûr, la prière, mais... Quand elle est publique, surtout là où se passe le drame peut-être le plus affreux de notre monde, c'est-à-dire la mise à mort des plus petits, alors là, je crois que nous sommes... à mes yeux, c'est une obligation de venir prier pour eux là où ils sont massacrés. Je pense que c'est véritablement un devoir. Alors, tout le monde est invité, bien entendu, Et plus nous serons nombreux, plus nous nous pourrons les enfin les aider. Alors je
signale, faut prendre un ciré parce que le plus qu'on risque c'est un œuf.
Ah, on risque peut-être. Ah oui, enfin bon.
Un œuf, une
tomate. La police, je signale que la police est très efficace. Extrêmement efficace. De même, je rends hommage à la police pour son c'est impeccable, enfin, absolument impeccable. Alors nous étions juste
la police avec nous.
La police avait samedi dernier, nous étions à Rennes, ça s'est très bien passé, je dois dire. Nous étions 60 avec pas mal de jeunes et des garçons assez décidés, des filles aussi. Et en face, ils étaient une centaine, il y avait des anarchistes, toujours un peu les mêmes, mais alors chose assez curieuse, un groupe de lesbiennes qui était à côté. Peut-être une trentaine, je ne sais pas exactement.
C'est pas un parti politique.
Et ça, ça c'était triste, parce que il y avait des slogans tristes, je dirais malheureux, enfin je ne sais pas comment appeler ça. Et tout naturellement, nous avons prié pour elle, parce que vraiment elle s'égare. Alors c'est étonnant, je vois pas très bien le rôle qu'elles ont dans l'avortement, mais tout se tient. C'est le féminisme, c'est-à-dire que on dissocie au fond c'est contre la doctrine de l'Église qui dissocie la sexualité de la fécondité. Là, c'est là. Donc, c'est vraiment ça. Et enfin, tout
ça montre bien, surtout le caractère grotesque et donc démoniaque de tout ça.
Parce que tout est inversé.
Des femmes inverties qui vont manifester pour l'avortement, normalement, ça les concerne pas. Le moins.
Normalement, elles ne sont pas concernées.
Elles peuvent pas se reproduire entre elles déjà.
Oui, sauf, pour autant que je sache, mais là, j'ai pas de détails.
Mais tout est à l'envers.
Donc c'est ça. On est dans la version diabolique.
Exactement, la version diabolique.
Donc, alors, au Chesnay?
Alors, au Chesnay, donc, c'est ça, je répète, à 14h30, devant André Mignot, l'hôpital André Mignot, samedi prochain, 16 novembre. Et voilà, pour la prochaine fois, à Paris, je vous dirai, c'est le 7 décembre, pour ceux qui...
Bon, ben, vous reviendrez.
Je saute sur l'occasion.
Vous savez que vous êtes chez vous, ici. Merci, cher docteur.
Merci.
À bientôt. Vous rentrez à bicyclette chez vous, là,
j'imagine. Oh non,
la nuit, quand même pas. Ah bon? À bientôt.
Merci. Je trouve le programme très intéressant.
Ah ben vous pouvez rester si vous voulez. Hein.
Non, je
l'écouterai
à la maison.
Bon, alors, bon retour. C'est quelqu'un quand même, le docteur Dor. Hein.
Oui,
c'est un sacré personnage. Qu'est-ce qu'il y a?
Vous ne lui avez pas fait répéter la...
Au Chesnay, la clinique du Chesnay, il l'a dit 3 fois. Vous voulez une 4e encore?
Ben, oui, parce qu'il y a toujours à la fin
bon,
que les auditeurs notent. Il n'est pas revenu. Allez, dites tout pour les auditeurs. La clinique du Chesnay.
La clinique du Chesnay, samedi à 14h30. Devant l'hôpital André Mignot.
Très bien.
C'est ça? On est bien d'accord? Bon. Franck opine du bonnet. Alors, Philippe Randa, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté, les éditions du Alpha qui publient un ouvrage antiraciste?
Oui, pourquoi pas?
Je pensais que c'était raciste, ou non?
Ben oui, non, beaucoup de gens le pensent à tort. Mais.
Ça me rassure parce que. J'étais inquiet, je me suis dit, pourvu qu'ils ne tiennent pas des propos contre la loi dans mon émission.
Non, il n'y a pas... C'est de la provocation de tenir des propos contre la loi. On peut très bien tenir des propos sans tomber sous le coup de la loi. Surtout quand on dénonce le racisme. Il se trouve que les collaborateurs, puisqu'en fait c'est vraiment un livre collectif, on a chacun fait une partie de ce livre, avec des opinions parfois, sinon contradictoires, du moins différentes, des gens pour
qui... Je comprends pourquoi là vous m'avez pas demandé une prestation pour ce livre.
Cher monsieur Bécaire, je vous ai déjà répondu, oublié.
C'est vraiment un livre antiraciste. Alors,
puis prenez-en... reprochez-le aussi à mon co-auteur, il ne faut pas avoir tous les reproches.
Oui, mais Matringen, je le connais très peu.
Ben voilà, c'est la raison pour laquelle il n'est pas venu.
Bon, blague à parler. C'est donc ce bouquin.
Il y a des contributions très différentes pour parler effectivement d'un sujet qui jusqu'à très peu de temps était assez tabou, puisque dès qu'on parlait d'immigration, on était forcément catalogué d'extrême droite. L'immigration d'abord était arrêtée depuis les années 70. Monsieur Jospin l'avait déclaré avant, lorsqu'il est arrivé au Premier ministre, avant de régulariser quelques 80 000 clandestins.
Mais ça, tout le monde est au courant. Les gens qui ne savent pas, c'est les gens qui continuent à le dire.
Avant, on ne pouvait pas en parler. En parler de l'immigration, on était forcément raciste si on ne plaignait pas les pauvres immigrés qui, en principe, ne venaient plus en France. Et aujourd'hui, la situation est quand même bien nouvelle. D'abord, des clandestins, il y en a partout. Il suffit de voir les derniers événements après Sainte-Gate.
D'ouvrir la porte d'une église.
D'ouvrir une porte d'une église. Et on est parti, mon co-présentateur et moi-même, d'un constat, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être parler autrement de toutes ces questions, non pas pour toujours répéter « non, nous ne sommes pas racistes, si vous êtes raciste, les immigrés sont des victimes, non, ce ne sont pas des victimes ». En partant du principe, déjà depuis 20 ou 30 ans en France, les choses ont bien évolué. Il y a aujourd'hui toute une population intégrée, Il y a toute une population d'immigrés, même si elle est devenue citoyen et citoyenne française, qui n'est pas intégrée. Ces gens sont forcément, on ne peut pas en parler de la même façon. Ensuite, aujourd'hui, tout le monde admet qu'il y a un problème. Va-t-on continuer à laisser venir en Europe des non-européens et principalement des Africains? L'ouverture sur l'Europe, bientôt une Europe à 25, va poser d'autres problèmes sur l'immigration, parce que tous les droits qu'ont obtenus par leur association généralement de gauche, les immigrés extra-européens, toutes ces lois vont bénéficier désormais aux Européens également. Mais est-ce que ces associations gauchistes et antiracistes qui en avaient fait une profession vont accepter de donner les mêmes droits qu'ils faisaient donner aux Africains à des Européens de l'Est et autres? Voilà les nouvelles questions qui se posent. Donc on a demandé à plusieurs collaborateurs de donner leur avis. On a fait très attention, bien évidemment, qu'aucun propos ne puisse tomber sous le coup de la loi. Donc, regardé attentivement. Et alors, à ma plus grande surprise, je n'ai même pas eu à censurer, à demander à certains collaborateurs de retirer certains propos. Je me suis aperçu qu'aucun propos, j'espère que l'avenir ne me démentira pas, mais je ne pense pas, ne tombait sous le coup de la loi. Et d'ailleurs, aucun propos n'était tourné contre les immigrés extra-européens. On s'est aperçu, pratiquement tous les collaborateurs là tombent d'accord, même s'ils le font par des voies différentes, avec des opinions différentes, sur un constat, c'est qu'aujourd'hui, le premier des racismes déclarés en France, c'est le racisme anti-européen, anti-blanc et anti-français.
Oui.
Donc, effectivement, il faut sortir de cette chape de plomb qui dit « Est-on raciste ou antiraciste ?» Moi, je suis désolé, depuis 20 ans, ça m'énervait de dire que j'étais antiraciste, parce que d'abord, j'avais l'air de me justifier. Mais aujourd'hui, je découvre que le seul racisme qui existe vraiment, c'est le racisme anti-européen. Il y a du racisme contre les Noirs, contre les Jaunes, contre les Juifs, bien sûr. Mais en France, ce n'est pas le plus important. Donc, il faut arrêter de culpabiliser sur le fait de dire qu'on est des antiracistes, des racistes, ou que forcément, si on se dit raciste, on devient antiraciste. Je veux dire, on devient, on tombe dans la dialectique anti-Front National, anti-Le Pen, anti-Mouvement National. Je crois que tout a changé depuis ces dernières années.
De toute façon, maintenant, il y a une course à l'appartenance antiraciste. Même chez Le Pen, partout, il faut surtout donner les gages qu'on n'est pas raciste. Absolument, c'est absolument indispensable. Il y a eu samedi une réunion à Wagram, réunion identitaire, la Maison de l'Identité, qui est une nouvelle association culturelle, donc qui a fait une grande réunion. C'était un succès, il y avait beaucoup de monde, c'était assez sympathique. Mais rue Place des Ternes, pas loin, il y avait les écolos avaient appelé à manifester. Alors c'était drôle, parce que comme il pleuvait, ils étaient à peu près 12. Mais donc ils manifestaient contre... Au nom du fait que cette réunion avait été, le date de cette réunion a été fixée la veille du premier jour.
Oui, non, ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, la date de cette réunion n'avait pas été choisie par hasard, puisque ils faisaient le rapport avec le 9 novembre 1938 en Allemagne, où il y a eu cette fameuse nuit de cristal où des gens ont saccagé des magasins juifs. Il faudrait aussi sortir de cette dialectique où on ne peut pas parler aujourd'hui d'un sujet actuel sans faire immédiatement un retour sur le passé, prendre par le plus grand des hasards une date similaire. Des événements dans le monde, des événements tragiques, il y en a quand même eu pratiquement 360, on peut en trouver un par jour.
C'est ça. Et comme la guerre a duré 5 ans, on doit pouvoir trouver une date funeste pour tous les jours. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus organiser aucune réunion, parce qu'on choquera forcément. Un jour, ça sera les Juifs, le lendemain, ça sera les Gitans, le troisième jour, ça sera les homosexuels, le quatrième jour, ça sera les marchands de caramel, parce qu'il y a certainement des marchands de caramel qui ont été déportés aussi. Et donc forcément, on va avoir des ennuis. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui m'a frappé, moi, quand même, c'est que tout le monde, y compris les organisateurs de cette manifestation fort sympathique au demeurant, étaient extrêmement soucieux de donner des gages d'un antiracisme militant et même d'une correction politique exceptionnellement nickelée, finement nickelée, puisque des amis ont voulu distribuer une carte postale qui montrait un portrait de M. Sharon avec un commentaire peu amène, mais enfin, ni raciste, ni même grossier, qui soulignait simplement que M. Sharon avait des méthodes de rétablissement de l'ordre en Palestine qui étaient un petit peu vigoureuses. Eh bien, le gars qui distribuait, qui voulait distribuer ses cartes postales, s'est fait confisquer les cartes postales par les organisateurs de la manifestation identitaire en disant c'est pas le moment. Alors, effectivement, c'est jamais le moment. Alors, moi, ça me frappe beaucoup. Cette espèce, on est arrivé maintenant en France à instaurer un terrorisme antiraciste qui fait que même la droite nationale la plus vigoureuse, la plus courageuse, va au-devant des exigences de l'adversaire en disant « Oh là là, il faudrait surtout pas qu'on croit qu'on est raciste !» Et sans se rendre compte d'ailleurs que tout ça n'a strictement aucune importance, puisque de toute façon, on sera toujours accusé d'être des racistes, des antisémites, des salauds, des nazis. Et par conséquent, quelques protections qu'on prenne, quelques précautions qu'on prenne et quelques garanties qu'on se donne, ça finira toujours par des injures. Par conséquent, je ne vois pas tellement la nécessité de protester de son antiracisme à longueur de journée. En revanche, l'attitude...
Je ne proteste pas de l'antiracisme.
C'est exactement ce que
je tiens juste à dire aujourd'hui que le fait de me déclarer antiraciste, parce qu'effectivement, avant, ça me gênait de dire que je suis antiraciste, j'avais l'air de me justifier, j'avais l'air de penser que j'aurais pu être raciste, alors que je pense que la défense de mon identité et de révéler les problèmes que peuvent poser une immigration incontrôlée n'était pas du racisme. Et aujourd'hui, le livre va dans ce sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces mots n'ont plus rien à dire. Déjà, les accusations de fascisme, de racisme, sont des termes complètement obsolètes. L'accusation d'antisémitisme ne tient plus debout, vu qu'aujourd'hui, les problèmes, d'abord, antisémites devraient dire qu'on n'aime ni les juifs ni les arabes, puisque les arabes sont des sémites comme les juifs. Vous essayez bon de le rappeler, parce qu'antisémite, maintenant, c'est devenu juste anti-juif. Mmh. Et souvent, des représentants, et je dis bien des représentants et non pas toute la communauté juive, se plaignait de l'antisémitisme qu'il y avait en France, d'abominables descendants ou des heures les plus sombres de l'histoire des fascistes et des nazis qui voyaient partout. Mais aujourd'hui, et j'en ai parlé avec nombre de représentants de la communauté juive, effectivement, les problèmes de la communauté juive ne viennent pas tellement de la droite dite extrême censée être antisémite. Il vient des problèmes
très
de l'immigration nord-africaine. Donc, tous les débats sont aujourd'hui
à remettre
à plat.
Je voudrais corriger ce que tu viens de dire, Philippe. C'est que quand tu dis aujourd'hui, les problèmes ne viennent pas de l'extrême droite, mais... Les problèmes de la communauté juive ne sont jamais venus de l'extrême droite, parce qu'il faudrait quand même rappeler une fois pour toutes que le chancelier Hitler était tout sauf d'extrême droite. Il était socialiste. C'est même l'appellation officielle de son parti. C'est un parti national socialiste. Donc, si les nazis ou les nationaux socialistes ont déporté les juifs et les ont massacrés, c'est pas à l'instigation du maréchal Pétain, contrairement à ce que d'aucuns voudraient faire croire, lequel maréchal Pétain n'était pas non plus de droite, d'ailleurs, puisqu'il avait été ministre du Front Populaire, ou du cartel des gauches. Il faudrait quand même arrêter de raconter n'importe quoi à n'importe qui, et ça devient un peu fatigant. Depuis qu'il y a une extrême droite en France, il n'y a pas eu de persécution antisémitique, il y a eu des réactions anti-juives au moment de l'affaire Dreyfus. Parce que le sujet était chaud. Et que les gens défendaient, en fait, l'extrême droite à l'époque, les nationalistes, n'attaquaient pas les juifs, ils défendaient l'armée. Ils avaient le sentiment de défendre l'armée. Bon. Mais depuis, c'est pas vrai qu'il y a eu une extrême droite antisémite en France. Et en tout cas, moi je peux témoigner que quand j'étais jeune militant nationaliste, on n'était pas du tout antisémite, absolument pas. Et qu'au Front National, il n'y avait pas, dont j'ai jamais été membre, mais enfin, il n'y avait pas d'antisémitisme au Front National d'une façon affichée ou officielle. Ça n'a jamais été la doctrine officielle d'aucun mouvement en France.
Il n'y a jamais eu doctrine. Il y a eu probablement, et c'est vrai, j'en ai connu des gens qui aimaient plus ou moins les Juifs, plus ou moins les Arabes, plus ou moins les Noirs, qui aimaient plus ou moins les nazis avec leur passé et tout ça. Mais c'était pas, un, la doctrine du parti. Deux, c'était jamais la doctrine de tout... Tout le monde n'était pas sur le même plan à ce niveau-là.
Alors, ce truc-là, ce mensonge perpétué, a pour objet de nous obliger à faire sans arrêt pénitence, à faire repentance, à dire non, pas du tout. Bon, ben moi, je suis absolument de ton avis, tout ça me casse les pieds. J'ai pas du tout envie de faire repentance et de faire pénitence pour des choses que j'ai pas faites. Et donc, au demeurant, je ne suis pas coupable, parce que n'étant ni allemand, ni nationaliste allemand, ni socialiste, ni même vivant en 1940, je vois pas très bien comment j'aurais pu faire partie des hordes nazies qui persécutaient les juifs d'Allemagne. Voilà, c'est quand même une chose qu'il faut dire de temps en temps. Et en revanche, aujourd'hui, comme le souligne le titre de ton bouquin,
Alors, le autre constat aussi, c'est qu'en fait, je vais parler peut-être plus de ma contribution que celle des autres. Je pars d'un constat. Il y a 15 ans, j'ai écrit un roman, Poitiers demain, qui mettait en scène une insurrection armée des Européens contre une immigration colonisatrice et agressive et violente. Je pensais que ça finirait tout ça dans le sang, qu'il y aurait une guerre civile et ethnique. Alors, ce n'est pas une hypothèse à écarter. Je suis pas devin, je fais pas de prophétie, je ne sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait. J'en étais persuadé à l'époque. Aujourd'hui, je pense que ça peut toujours arriver, tout peut toujours arriver, mais je pense que l'on se dirige plutôt vers une société de ghetto où chaque ethnie, chaque religion, chaque parti politique, chaque centre d'intérêt aura des communautés à elle, que ces communautés vivront les unes à côté des autres. C'est la société américaine, où il n'y a absolument pas de mélange ni de classe ni de race aux États-Unis, ou extrêmement peu. Ça finira dans un bain de sang ou pas, j'en sais rien, mais c'est que cette société sera de toute façon une société raciste et non pas raciale. La société multiraciale n'existe pas, elle n'a jamais existé, c'est une utopie. On veut absolument nous imposer cette idée-là dans la tête, alors que ça ne fonctionne nulle part. On l'a vu au Liban, on l'a vu même au Brésil, qui passe pour un grand pays de mélange ethnique. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de métis, il y a beaucoup de mélanges, mais il y a une minorité blanche qui dirige le pays.
Au Brésil, on peut dire que c'est même pire, puisque tous les gens qui ont vécu au Brésil et qui connaissent le pays disent que, en fait, la hiérarchie sociale recouvre exactement la gamme de la couleur. C'est-à-dire, plus on est noir et plus on est en bas dans la hiérarchie sociale, et plus on s'approche du blanc et plus on monte.
Voilà. Donc la société
clairement une société
fonctionne bien
de
ou mal,
caste raciale.
Comme ça. Exactement. L'Inde fonctionnait sous une forme de caste. Mmh. Les États-Unis, c'est également une caste. Là, c'est l'argent qui prime tout, mais il n'y a jamais aucun mélange.
On tend à ça dans
toutes les sociétés européennes. On voit bien les quartiers de Paris commencent, des grandes métropoles commencent à se mettre en communautés séparées, où chacun voit son propre intérêt.
C'est un bouquin de constat, mais est-ce qu'il y a des propositions de traitement?
Il y a plusieurs propositions. Il y a beaucoup. D'abord, on rappelle beaucoup de choses. On parle beaucoup de la Turquie après les déclarations de Valéry Giscard d'Estaing expliquant qu'il n'y aurait plus d'Europe si la Turquie rentrait dans l'Union européenne. Il y a un très gros chapitre de Robert Stokers, qui est un journaliste et un philosophe belge, qui donne toute l'historique des relations des pays européens avec la Turquie, où on s'aperçoit que la Turquie a toujours été un corps étranger à l'Europe, parfois favorable à certains pays européens selon ses intérêts. Actuellement, la Turquie était alliée aux États-Unis, qui ne s'en cachait pas. D'ailleurs, c'est sous prétexte que, justement, la Turquie a été alliée depuis des dizaines d'années aux États-Unis. On dit, mais voyez bien, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec le reste du tiers-monde.
Ils peuvent retourner
pour leur intérêt. C'est une civilisation qui est totalement différente des autres pays européens. Donc là, Stokers le rappelle. Exactement. Et tu parlais de propositions concrètes pour savoir comment on pourrait arrêter des choses, parce que la fermeture des frontières, c'est clair, les frontières sont des passoires, il y a des filières qui permettent aux immigrés chaque jour de rentrer. Une fois qu'ils sont rentrés dans le pays, ils sont quasiment plus expulsables. Tout ce que fait le gouvernement, on voit bien que ça ne sert strictement à rien. On a fermé Sandgate, immédiatement, il y a eu 30 endroits où les réfugiés, les immigrés restent, expliquant qu'ils ne veulent pas rester en France, qu'ils veulent aller dans d'autres pays, donc ils voient pas pourquoi on leur pose des problèmes en France. En fait, la moitié du temps, les gens repartent, restent dans le pays, finissent par avoir des papiers.
C'est tout simplement un manque de courage et un manque de politique organisée, parce que un pouvoir qui prendrait la décision de pas garder ces gens-là, d'abord, il le ferait savoir officiellement, il ferait savoir urbi et orbi, par tous les moyens possibles et imaginables, que tout clandestin qui entre en France sera immédiatement enfermé dans un camp d'internement dans l'attente de la solution de son truc. Et on met les gens. Il y a suffisamment de territoires en France pour faire ça. Il y a même des territoires dans les dom-toms qui pourraient faire très bien l'affaire. Moi, je verrais très bien ça se passer du côté de Cayenne, qui présente l'avantage d'avoir un climat qui correspond à peu près au climat d'origine de ses visiteurs, en leur disant, vous voulez absolument être en France. Ben là, vous êtes en France. Voilà, c'est bien, c'est la France. Hein. En plus, il fait beau, il fait chaud. Vous êtes très bien. Maintenant, vous allez vous démerder. Vous allez cultiver. Vous allez faire le petit commerce et tout. Ça, cet espace, il est chez vous. Puis, si vous voulez rentrer chez vous, demandez la permission. On vous offre le voyage. Mais pour rentrer chez vous, il n'y a absolument aucune raison, mais aucune raison au monde que une région comme le Calaisie soit envahie. Enfin, c'est dément. C'est des gens qui viennent du monde entier, et généralement, comme les Kurdes, qui n'ont absolument aucune relation, même lointaine, avec notre civilisation, avec notre culture. Ils parlent pas notre langue, ils n'ont absolument rien de commun avec nous. Ils viennent chez nous d'une façon illégale. Ce sont donc des délinquants. Et on les laisse faire. Enfin, personne n'accepterait ça de personne, nulle part. Il n'y a pas un pays au monde, il n'y a pas un pays arabe au monde qui accepterait que des Français aillent s'installer dans une mosquée en disant « on y est, on y reste, ça vous plaît pas, c'est le même prix, donnez-nous à bouffer, donnez-nous de quoi nous changer, donnez-nous des vêtements. Hein. » Bon, alors, au nom du christianisme, on va faire ça. D'abord, on est une société laïque, alors faut pas venir nous bassiner maintenant. Alors, le christianisme, ça leur sert quand ils en ont besoin. Hein. Donc une société laïque devrait dire, nous, on n'a pas de principe religieux. Hein. On est chez nous, on doit protéger nos nationaux. Ce qui ne se passe pas en ce moment, parce qu'à Lille, enfin à Calais ou dans la région de Sangatte, ce sont les... Alors là, on est vraiment dans un phénomène raciste, hein, parce que les habitants, les indigènes, c'est-à-dire les gens qui sont des Français qui sont sur place, sont victimes de cette invasion. Ils sont victimes de la menace que fait peser sur le plan de la sécurité, sur le plan sanitaire, sur tous les plans, la présence de ces clandestins délinquants, et ils sont victimes en plus financièrement, parce que c'est quand même nous qui payons ces trucs-là, tout le fric qu'on dépense, quand on met des dizaines de flics autour d'une église, parce qu'il n'y a pas un type au pouvoir qui a les cojones pour dire, vous allez me virer ces types-là et renvoyer chez eux, pendant des semaines et des semaines, on a des flics qui font le pied de grue, il faut les nourrir, on sait ce que ça coûte des poulets comme ça qui sont en garde statique. Eh bien, c'est les Français qui payent ça. On ne leur demande pas leur avis. Au nom d'un petit groupe de terroristes merdeux de la CNT, des gauchistes, des anards, qui font de l'agitation politique en profitant de la misère du tiers-monde, on est en train de véritablement fabriquer une bombe atomique sociale qui va exploser en France. Moi, personnellement, je m'en réjouis. Ça fait des années que j'attends ça. Ça fait des années que j'attends qu'il y ait le drame, le véritable drame, qui va provoquer une prise de conscience par les Français de la situation réelle de l'immigration. Mais n'empêche, quand je pense que les gens ont voté pour Chirac en pensant qu'il allait résoudre le problème de l'immigration, et que quand Sarkozy a commencé ses acrobaties, on a pensé qu'il allait, lui, régler le problème de l'immigration, tout ça est une foutaise, tout ça est une imposture, ils ne feront rien. La situation est absolument dramatique. Et alors, justement, pour revenir à notre sujet...
Soyons Serge, ce discours-là, tu le tiens depuis 20 ans.
Oui, oui, mais on va finir par avoir raison.
Tous les invités ici le tiennent, en sont conscients. Ça n'a débouché, en fait, sur pas grand-chose. Pourquoi?
Parce que personne n'a jamais rien
fait. Tout simplement parce que les problèmes de Sangatte ou maintenant de Calais, dans la Mayenne, l'abbé pourra en témoigner, c'est très loin, tout le monde, à part peut-être lui, mais tout le monde s'en fiche. Aujourd'hui, le camp de Sangatte, on en a parlé pendant 2 ans, ça a été insupportable pour les gens de la région de Sangatte. Ils ont élu Jacques Lang comme député. Je pense pas que ce soit son élection qui ait fait fermer le camp. C'était prévu. Mais aujourd'hui, le camp est fermé. Il y a 20 Sangatte qui se sont ouverts depuis. Et les gens de Sangatte n'ont toujours pas, eux, ça ne les concerne plus, le problème de l'immigration. Ils sont partis. Ça ne concerne pas la Mayenne, ça ne concerne plus Sangatte, ça concerne les autres. Et donc, personne ne bougera. Alors, il y a une solution, effectivement, qui me paraît très bien, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que ces gens viennent en Europe. Parce qu'on leur fait miroiter l'Europe comme un paradis. Et effectivement, économiquement, il faut bien voir que par rapport à l'Afrique, à leur régime, leur situation là-bas, c'est un peu le paradis, du moins ils le croient. Et puis, de toute façon, le peu qu'on leur donne, qui est énorme pour nous, c'est toujours mieux que ce qu'ils ont là-bas. Il suffit, et ça Alain Dumay l'explique très bien, lui il défend une vision libérale, comme chacun sait, de l'économie, mais il explique très bien qu'il faut supprimer cet état-providence, il faut arrêter de donner des subventions, il faut arrêter d'entretenir des gens à ne rien faire, parce que forcément, on ne peut pas, on l'a vu, donner la préférence nationale de l'islam de travail, puis c'est interdit. Catherine Maigret, qui en témoigne dans cet ouvrage, a voulu donner une prime de naissance aux citoyens français. Donc là, ce n'était pas un problème européen. Ce n'était pas un problème de race ni de religion. A été condamnée, lourdement condamnée, même si finalement, je crois qu'elle a été mise hors de cause par la Cour européenne ou la Cour de cassation, je ne sais plus. Mais elle a été condamnée. Donc on ne peut pas donner la préférence nationale pour les subventions. Tout le monde doit en profiter du moment où il met le pied sur terre. Ben, il faut arrêter cet état providence.
Oui, mais là où je suis pas d'accord avec Dumay, c'est que le libéralisme.
Je ne défends pas le libéralisme. Je donne la version qu'il a pour l'immigration, et je pense effectivement que l'état providence, s'il n'y avait plus d'état providence, l'immigration réduirait et même beaucoup d'immigrés en France repartiraient.
Mais il y a une réponse à apporter à ça. C'est que je ne vois pas au nom de quoi on va changer nos lois sous prétexte que nos lois parfois peuvent profiter à des étrangers. Il faut mettre un terme à ça. Quand Dumay défend le libéralisme comme il le défend, comme Garello, comme des gens qui parlent sur cette radio aussi, moi j'appelle ça, et c'est pas moi qui ai inventé l'expression, c'est la liberté le renard libre dans le poulailler libre. La France a mis au point un système qui vaut ce qui vaut, qui est une espèce de libéralisme dirigé ou d'étatisme libéral, comme on veut, qui en gros fonctionne. C'est-à-dire qu'on aide les gens qui en ont vraiment besoin et on fait payer cette aide par ceux qui ont un peu beaucoup de moyens. Bon, ça marche tant bien que mal, mais ça marche.
Ça a marché pendant longtemps.
Oui, et ben ça marche plus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pendant des années, les gens qui utilisaient les aides, qui recevaient des aides, ils participaient peu ou prou à la richesse nationale. Et c'était des gens pauvres, mais qui travaillaient. Et puis les gens riches, qui travaillaient aussi, payaient un peu plus aux pauvres. Maintenant, on a des gens qui viennent ici uniquement, parce qu'on a un système où ils sont assurés qu'au nom d'une espèce d'humanitarisme béat et bêlant, on les laissera pas crever de faim. Moi, je suis désolé. Je pense qu'il faut maintenant revenir à des valeurs fondamentales. Si tu travailles pas, tu bouffes pas. Et si tu n'es pas du pays, tu n'as pas le droit de travailler. Point à la ligne. Il n'y a pas assez de travail pour en donner aux étrangers. Et il n'y a pas assez de nourriture pour en donner à ceux qui ne travaillent pas. C'est aussi simple que ça. Et s'ils sont si forts que ça, ces gens-là, ils n'ont qu'à aller, je parle des gens qui aident les immigrés en France, ils n'ont qu'à aller les aider chez eux. J'entendais l'autre jour à la radio, je crois que c'est France Inter ou Europe, peu importe, un professeur de droit qui parlait et qui exprimait sa position. C'était un immigré, un étudiant africain qui disait « Je vis en France depuis 7 ans, j'ai fait mes études en France et je n'arrive pas à obtenir mes papiers pour devenir français. Je voudrais m'installer en France. » Et le prof de droit lui dit « Mais cher monsieur, votre pays a besoin d'élite. Qu'est-ce que vous attendez pour retourner chez vous ?» Moi, me disait-il, chaque fois qu'on me demande mon avis sur cette question, puisqu'il appartenait à une commission spécialisée, je donne un avis défavorable. Il n'y a aucune raison que les élites africaines viennent vivre en France. Les élites africaines, elles doivent vivre en Afrique et elles doivent rendre service aux pays africains. C'est exactement la position qui me parle. C'est pas du racisme, c'est tout simplement du bon sens. Il n'y a aucune raison que des gens qui n'ont aucune qualification viennent faire payer leur manque de qualification par nous. Et il n'y a aucune raison que des gens qui ont des qualifications généralement acquises chez nous viennent profiter, eux, de leurs qualifications chez nous. Et donc, allez, on fait leur profiter leur pays. Parce que pendant que les pays africains réclament à corps et à cri qu'on leur envoie, aux frais des contribuables français, des médecins, médecins sans frontières, médecins machin, médecins trucs, etc., on voit des Africains qui viennent en France et qui occupent dans les hôpitaux des postes qui sont refusés à des jeunes étudiants en médecine et on leur dit « il n'y a plus de place ». Parce que c'est un système de fous furieux.
C'est fou furieux. Voilà. Mais tu oublies une chose, Serge, c'est que si des immigrés prennent ou ne prennent pas le travail aux Français, c'est aussi parce que nombre de Français, grâce à cet état-providence, sont payés à ne rien faire.
C'est de moins en moins. Alors, pas très vrai.
Écoute, moi, nombre de chefs d'entreprise qui cherchent à avoir des employés, notamment manuels, ne trouvent pas. Actuellement, il y a une sinistre strose complète dans tout ce qui est recherche de travail manuel. La réalité, je pense, elle est là. Donc, effectivement, il faudrait remettre les Français au travail afin que ne soient pas certains immigrés, parce que c'est pas tous les immigrés. C'est là, je crois, que l'erreur, et on peut
non,
plus
appeler... Non, les immigrés, c'est pas le problème. Le problème, c'est la législation.
Lorsqu'on arrêtera de payer les gens à ne rien faire, immigrés ou Français, une grosse partie des problèmes d'immigration sera réglée.
Il y a une différence. Il y a quand même une différence. Enfin, les Français, même le type qui est paresseux, qui fout rien en France, il vient d'une lignée qui fabriquait le pays. Son père a travaillé, son grand-père a travaillé, son arrière-grand-père, tous ses ancêtres ont travaillé en contre le pays.
Ça ne justifie pas qu'il refuse de travailler.
Ça ne justifie pas, d'accord, mais ça lui donne un petit droit à participer à la richesse du pays. Tandis que le type qui nous tombe du ciel ou d'ailleurs, qui arrive ici et qui dit « Alors maintenant, je suis le roi de la Pampa, j'ai droit à tout », quand on pense que la ville de Paris, par exemple, paye des chambres d'hôtel à des immigrés clandestins, mais c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux. Il y a des vieillards en France qui vivent, et des jeunes Français, qui vivent misérablement dans des trous à rats, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne gagnent pas assez pour vivre. Un garçon qui est payé au SMIC aujourd'hui, à Paris, c'est absolument impossible qu'il se loge et qu'il mange. C'est impossible. Bon, eh bien, eux, on leur dit « Allez vous faire foutre ». Et pendant ce temps-là, on loge des familles entières dans des hôtels. Il y a un hôtel qui s'appelle, dans le 19e arrondissement, je ne vais pas donner le nom parce que ça ne sert à rien, il y a un hôtel, c'est la préfecture de Paris qui paye toutes les chambres de l'hôtel pour loger des immigrés clandestins. Ça fait des années que ça dure. Il y a eu dans cet hôtel, pendant un moment, j'avais publié la note de l'hôtel, une famille, le mari, les trois femmes et 24 enfants. Ils occupaient des étages entiers de l'hôtel, payés par la mairie de Paris. Enfin, c'est scandaleux. Jusqu'à quand on va tolérer ça? Et en plus, ça continue d'arriver. Ils viennent s'installer, enfin, sans aucun motif. Tout ça pour dire ils veulent aller en Angleterre. Et pour comble de conneries, il n'y a pas d'autre mot, c'est la police française qui est chargée d'empêcher les immigrés de foutre le camp en Angleterre. Mais on devrait leur payer le voyage. On devrait les transporter là-bas en disant « Vous voulez aller en Angleterre ?» Ben ne vous gênez surtout pas. Et puis dire aux Anglais « Si vous voulez pas qu'ils rentrent, empêchez-les. » Mais enfin, nous, on va pas les retenir en France.
Ça fait des années que ça dure.
Justement, raison de plus pour que ça s'arrête.
Une amie qui travaillait dans une agence de voyage, donc dans l'aéroport de Rungis, et elle m'avait expliqué ça. Elle me dit « Mais on a vu les policiers arrêter des gens venus aller à un visa pour aller en Angleterre ou ailleurs, mais ne pas avoir les visas. » Et dire, eh ben non, nous, on veut pas rester en France, on fait là passer, mais on n'a pas les visas, on va les avoir.
C'était très drôle.
Et qu'est-ce que faisait la police? Les laissait en France.
Et ce qui était très drôle dimanche matin, c'est sur toutes les radios d'entendre le maire communiste de Calais a ouvert les portes de l'église.
Oui, ça.
Alors je dis, dans un pays comme la France.
Enfin, on est dans le délire total.
Dans un pays.
Bon, alors, d'une certaine manière, moi, je trouve ça très bien, parce que je me dis, peut-être que même dans la Mayenne, on va finir par comprendre. Je vois pourquoi on en est spécialement à la Mayenne ce soir, mais.
Parce qu'on a représentant de la Mayenne.
C'est évident que ça pourrait pas durer encore. Ça pourra pas durer très très longtemps. C'est évident. Parce que la seule chose qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il en reste encore un petit peu aux Français, quoi. Oui. Il faudrait. Quand j'entendais Poutine hier soir parler ou avant-hier soir parler aux journalistes du Monde, voilà, ça c'est un grand moment. Ça. Voilà un chef. Vous n'avez pas vu ça?
Non, malheureusement.
Journaliste du Monde dans une conférence de presse qui dit à Poutine, Monsieur Poutine, quand vous bombardez avec des bombes à fragmentation. La Tchétchénie, est-ce que c'est pas plutôt pour tuer des civils que pour tuer des militaires? Et alors, Poutine lui dit, ah, mais je vois que monsieur s'intéresse beaucoup au sort des islamistes. Je pense que vous voulez vous convertir à l'islam. Et vous avez parfaitement raison de le faire. Mais, parce que, en tant que chrétien, vous risquez des ennuis. Mais, ne croyez pas qu'en tant que musulman, vous n'aurez pas d'ennuis, car les islamistes fanatiques détestent au moins autant les musulmans que les chrétiens. Cela dit, si vous voulez, dit-il, on n'a pas traduit tout ça, ça n'a pas été traduit sur les radios françaises. Cela dit, si vous voulez, dit-il, vous convertir à l'islam fanatique, alors venez à Moscou, nous avons des spécialistes de la circoncision qui font ça très bien, et je donnerai des ordres pour que ça ne repousse pas. Alors évidemment, on voyait tous les journalistes, on avait l'impression d'un poulailler qui avait pris un coup de latte. Ils se regardaient en gloussant. Oh, mais comment? Enfin, de quel droit on parle à journaliste sur ce ton? Alors, il a fallu une conférence de presse où on a vu arriver, ça s'est passé sous l'égide de la Communauté Européenne, du Conseil de l'Europe, non, de l'Union Européenne, on a vu arriver une espèce de grand Flandrin qui a pris le micro et qui a dit, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment des faux culs. Il dit, il faut d'abord être sûr que le président Poutine a bien tenu les propos qu'on lui impute et nous allons vérifier si les interprètes étaient qualifiés. Autrement dit, attendez, ça veut dire que ces gens-là, ils payent des interprètes dont ils sont pas sûrs qu'ils sont qualifiés pour faire leur boulot. Alors ils vont vérifier. Et il a dit, bien entendu, si ces propos ont été tenus, c'est absolument intolérable. Enfin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, si vous voulez vous faire naturaliser, enfin vous faire convertir à l'islam, vous allez subir la circoncision, ce qui est un fait absolument patent. Et bon. Alors maintenant, ça devient, on a l'impression que les journalistes sont des espèces de vaches sacrées. Faut pas toucher, faut surtout pas, faut pas rigoler avec. C'est très très sérieux, journaliste du Monde.
Ça rappelle une mésaventure qui est arrivée à un journaliste américain qui était l'envoyé spécial. Je crois que c'était du New York Times à Moscou. Et donc un jour, il va voir un haut dirigeant du Parti communiste soviétique et où il essaye de l'intéresser au sort des populations bouriates. Donc les bouriates, c'est une ethnie mongole qui vit du côté d'Irkoutsk. Et donc il dit les bouriates souffrent de discrimination et donc il essaye de l'apitoyer sur le sort des bouriates. Et le dirigeant soviétique le regarde droit dans les yeux et lui répond « Si vous vous intéressez tellement à ces guenons, vous n'avez qu'à en épouser une ».
Ben voilà, ça c'est du racisme pur. Alors comme c'est un stalinien, on sait pas mal, ils ont le droit. Voilà, donc, alors les gère une société multiraciste, c'est donc le recueil d'articles de plusieurs prestataires. J'en ai oublié un, d'ailleurs, je me suis aperçu en lisant la liste, c'est Christian Boucher.
Oui.
Alors donc...
Parce que alors, le dernier, dernier intérêt, je trouve, de ce livre, c'est qu'il fait appel aussi à beaucoup de journalistes étrangers. Ce sont pas que des journalistes, des historiens ou des gens de la société civile française. Il y a donc un Belge Stoker, un Italien, bon tant pis, Charlotte Sawyer, américaine. On a vraiment voulu, et Jacques Borde qui a parlé...
Il n'y a pas de Tchétchène.
Il n'y a pas de Tchétchène, non. Ce sont des sujets explosifs, généralement.
Il n'y a pas de Turc non plus.
Et notamment, on aborde les problèmes de l'immigration au Japon, en Asie. C'était quand même assez varié. Ça ne fait pas le tour de la question. Il faudrait une encyclopédie, bien sûr. Mais enfin, il y a beaucoup de points de vue quand même assez différents où on voit qu'en fait, tous les poncifs sur le racisme sont assez mis à mal.
Et si Philippe veut donner la parole à des Tchétchènes, je lui conseille d'ouvrir une chronique théâtrale dans du Alpha.
Voilà.
Alors, ça s'appelle « Vers la société multiraciale », c'est édité
Multiraciste.
Par... Multiraciste, pardon. Quel lapsus ridicule. C'est publié par les éditions du Alpha. Et les éditions du Alpha, l'adresse, c'est boîte postale 58, 77 522, Coulommiers-Sedex.
Si vous ne répétez pas, personne n'a pu noter.
Je vous donne le bout de papier. Vous le répéterez tout à l'heure. Non, ce que je veux dire, c'est que à partir de, enfin, depuis une décade, à la fin du Libre Journal, je publie... Nous publions maintenant, dans chaque numéro du Livre Journal, toutes les données qui sont citées pendant l'émission. Les adresses, les numéros de téléphone, les titres des bouquins, tout. Parce que j'ai remarqué que très souvent, quand on donnait un numéro de téléphone, quand on donnait une adresse, l'auditeur n'avait pas le temps de noter. Il fallait répéter 5 fois, ce qui ennuie les auditeurs qui n'ont pas envie de noter. Donc on les dira 1 fois ou 2, et puis on indiquera ça dans la dernière page du Livre Journal. Et à ce moment-là, vous écrivez avec un carnet de timbre. Vous envoyez un carnet de timbre, on vous envoie le journal. Et si vous ne voulez pas envoyer le carnet de timbre parce que ça vous paraît excessif ou de la vente forcée, vous envoyez simplement une enveloppe timbrée à votre nom et on vous mettra dans l'enveloppe timbrée un tirage photocopié de la page avec les informations que vous pouvez souhaiter, les adresses des... Les titres des livres, les adresses des éditeurs, les indications des différentes réunions, manifestations, et toutes ces sortes de choses. Voilà. C'est clair? Vous avez compris, Fersan, ce que je viens de dire?
Même moi, j'ai compris.
Voilà, ça. Donc, je pense que là, on peut être tranquille. La quasi-totalité des auditeurs auront compris. Vous allez bien? Vous êtes arrivé en retard? Qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'étais bloqué dans le périphérique, comme disaient les inconnus.
Vous étiez charrette, pourtant.
Charrette hyper débordée, oui.
Alors, Philippe Gauthier, pour ne pas sortir du sujet, oui. On va dire un peu de mal des Allemands.
Non.
Enfin, moi, je vais en dire. vous allez les défendre, bien sûr.
Oui.
Le racisme anti-allemand, c'est sérieux? Il y a vraiment un racisme anti-allemand?
Oui, je crois que depuis la 1870,
il y a quand même une sorte de
paranoïa récurrente sur les Allemands.
Il est bien paranoïa. Écoutez, moi, quelqu'un qui rentre tous les 30 ans chez moi pour me casser la gueule, la troisième fois,
C'est parce qu'on lui a des.
On lui a
parce
dit
qu'on
du
leur
mal.
A déclaré la guerre.
Ah oui, d'accord.
En 1870, ouais. C'est nous. En 1939, c'est nous. Comme Arletty disait.
Et 14, on en parle ou on
Ah non,
reste
ben 14,
tomber.
C'est d'accord. Oui. D'accord. Mais je dirais comme Arletty, il ne fallait pas les laisser rentrer. Comme...
Non, mais il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Je veux dire. Je veux bien que qu'il y ait une paranoïa. Enfin, vous dites qu'il y a une paranoïa. Moi, je vous dis simplement, si tous les 30 ans, le gars rentre chez moi, ou tous les 3 ans, un type rentre chez moi pour me gifler, la quatrième fois, je vais dire, attendez, vous restez à la porte, je vous ouvre pas. Il va me dire, vous êtes paranoïaque. Non, c'est pas que je suis paranoïaque, c'est que je suis un peu moins bête qu'il y a 30 ans.
Si, parce que je crois que, par exemple, la guerre de 1870, même un homme qui n'est pas particulièrement germanophile comme Clémenceau, reconnaissait que c'était absolument de notre faute. Hein, la guerre de 1870 pour une question de succession d'Espagne. Bon, et ça a été à l'origine de tout le reste, puisque ça a été la perte de l'Alsace et de la Lorraine allemande qui a engendré justement une excitation anti-allemande, bon, qui peut être compréhensible, évidemment, mais quand même.
Mais aujourd'hui, ça se manifeste comment, cet anti-racisme?
Non, mais c'est pas quand on entend, je vois, je vais pas parler de la télé, on a toutes les,
tous les jours.
Oui, mais
quand on est câblé, on a tous les jours un film sur la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, mais c'est difficile de donner le mauvais rôle aux Espagnols, par exemple. Moi, je veux bien, mais si on fait un film
on a tous les jours.
Au lieu du
on a tous les jours, et puis je crois
que... colonel Strumpfis, on met le colonel Romero.
On a qu'à dire que c'est pendant la guerre d'Espagne.
Ça n'a pas marché.
Non, mais je vois, et puis sur le plomb, enfin... ça va de la droite maurassienne jusqu'aux communistes, anti-germanistes.
Pour une fois, faut pas oublier aussi que parmi toutes les méfaits que nous ont fait les Allemands, faut pas oublier non plus qu'ils nous ont quand même sorti deux fois en demi-finale de Coupe du Monde.
Oui.
Je dis ça parce que Philippe Gauthier est un amateur éclairé de football. Pour une fois, je me sens pas minoritaire dans ce micro.
Non, c'est vrai.
Alors, il y a une autre raison quand même. Il y a un autre.
Moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que je suis resté dans la veine de mon livre sur l'immigration, la Toussaint Blanche. Mmh. Et que pour moi, l'anti-germanisme, les guerres franco-allemandes sont l'origine principale de notre décadence démographique, économique et morale.
Ah oui, mais bon, je suis pas loin d'être d'accord, puisque ça a été le suicide de l'Europe. Ça,
c'est exactement.
On est bien quand même le suicide de l'Occident. Mais de là à prétendre que... Parce que je vous faites pas d'ailleurs, mais ce que font certains auditeurs, je le vois à chaque fois qu'on évoque la question, on va le faire d'ailleurs la semaine prochaine, je préviens les âmes sensibles, avec Pierre Hillard qui va venir réexposer certaines de ses vues sur le plan germanisme. C'est pas parce qu'on constate que les Allemands ont des visées impérialistes, pan-germanistes, qu'on est forcément raciste anti-allemand. On peut dire que nos intérêts se heurtent aux leurs, que les intérêts français sont pas conformes aux intérêts allemands, pas plus qu'aux intérêts anglais d'ailleurs.
Je sans crois pour autant être considéré. Il n'y a aucun pan-germanisme, parce qu'on leur a, que ça soit à l'est ou à l'ouest, on leur a pris presque tout, et même au sud. Je veux dire la Silésie, la Prusse orientale, tout ça, ça a disparu.
Les Sudètes, ils ont de quoi s'occuper là.
Correspondaient à peu près à ce qu'est l'Auvergne pour les Français. On leur a piqué. On a récupéré l'Alsace-Lorraine. Quand on voit l'Allemagne de la période d'avant 14-18 et l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est vraiment réduit à sa plus simple expression.
Oui, mais le pan-germanisme, il n'est pas simplement géographique. Là, par exemple, je répète qu'on va en parler la semaine prochaine avec Hillard. Non, pas la semaine prochaine, dans 15 jours, j'ai une bêtise.
Oui.
Avec Hillard. Ou si c'est la semaine prochaine.
Donc, la semaine prochaine. Donc, un jour, c'est Bernard Lugan.
Il a découvert un document qui est formidable. Un truc qui est formidable, c'est que on est en train de préparer un nouveau code civil européen qui va remplacer le code civil français et le code civil dans tous les pays d'Europe. Et ce code est écrit entièrement, réalisé entièrement et fabriqué entièrement par des Allemands. Et il est d'inspiration totalement germanique dans sa conception, dans ses attendus, donc ça va être pour les Français une formidable révolution culturelle d'adopter un mode de pensée juridique allemand.
Ah oui, je connais pas là.
Ah oui, mais alors ça c'est une forme d'impérialisme tout à fait claire. Alors je dis pas que ça justifie le racisme anti-allemand, mais si ça le justifie pas, ça peut expliquer certaines réactions de méfiance.
Oui.
Vous croyez pas que l'Europe, loin d'être l'Europe telle qu'elle est conçue, cette Europe-là, comme dit Jean Madiran, loin d'être un outil de réconciliation franco-allemande, c'est un outil d'excitation des antagonismes.
Non, je crois pas. Je pense même, à propos de la Turquie, on oublie trop souvent, je suis pas contre l'élargissement de l'Europe à des nations, de vieilles nations européennes. Et je pense que, par exemple, des pays comme la Hongrie, la Slovaquie, et la Pologne ne seront pas bien d'accord pour l'entrée de la Turquie dans le marché commun, dans l'Europe, pour des raisons historiques, parce que les Hongrois ont encore des siècles après un très mauvais souvenir.
Et ne parlons pas des Grecs.
Les Allemands, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Je ne sais pas, parce que les Allemands, ils en ont déjà suffisamment chez eux.
On n'a jamais assez d'amis chez soi.
mais les Allemands sont toujours, ça se voit que les Allemands sont de très bons commerciaux. C'est d'ailleurs en partie pourquoi ça a provoqué la guerre de 14, cette rivalité commerciale avec la Grande-Bretagne. C'est que les Allemands savent très bien exporter leur surplus ottoman. Il suffit de voir Strasbourg.
Une grande partie aussi de cette germanophobie, de ce racisme anti-allemand vient du fait qu'on a coller au peuple allemand l'étiquette de criminels de guerre et uniquement sur eux. C'est-à-dire que dans la mentalité collective, dans l'inconscient collectif, lorsqu'on parle de crimes de guerre, on ne parle que des crimes de guerre allemands. Ils en ont commis, mais on oublie toujours de dire que tous les pays ont commis des crimes de guerre.
À ce propos, je voudrais citer Aldo Dami, qui est un Suisse, donc un neutre, qui disait, comment disait-il ça Carthage ne peut pas se défendre, quoi. C'est le vainqueur qui écrit l'histoire, et Carthage n'est plus là pour se défendre.
Comme disait Brasillac.
On ne parle jamais d'Hiroshima, Nagasaki, du Havre, de Dresden.
On continue
à parler que
lorsqu'on procède Nuremberg, excuse-moi Serge, mais c'est révélateur. Lorsqu'on procède de Nuremberg, on a commencé à donner des accusations contre les armées allemandes et tout. Keitel a dit, oui, mais attendez, nous avons fait ça peut-être, mais vous, et on l'a arrêté tout de suite, attendez, nous sommes là pour vous juger vos crimes et pas les nôtres.
Ah oui. Alors, mais ça, c'est le seul on imagine le juge qui ferait comparaître un type parce qu'il bat sa femme, c'est le type qui lui dit, monsieur le juge, tout le monde sait que vous aussi vous battez votre femme. Il va dire, attendez, c'est pas mon procès qu'on est en train de faire, c'est le vôtre. Ça, je dirais que c'est de bonne guerre. Moi, ce que je voudrais savoir, quand même, c'est, parce que le racisme anti-allemand, c'est un mot, ça claque sur la couverture, elle est superbe, d'ailleurs, l'illustration est belle, mais ça se manifeste comment? Parce que moi, j'ai jamais entendu des gens dire dans la rue dans un allemand...
Moi, j'ai un cas personnel. Par exemple, 30 ans après la guerre, mon voisin, on recevait des Allemands à la maison. Donc, une voiture s'arrête, etc. Mon voisin, qui est un monsieur, d'ailleurs, très gentil, qui est venu me dire, comment, monsieur Gauthier, vous recevez des gens comme ça? Non, parce que c'est authentique.
Pourquoi ils étaient venus avec le commande car?
Mais non, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas de croix. C'était une voiture tout à fait normale.
C'est sûr qu'ils ne venaient pas repérer le terrain pour la prochaine,
une voiture tranquille de bourgeois de Lunebourg qui n'avait rien à voir avec les commandes car de la Wehrmacht.
Bon, cela dit, il faut reconnaître une chose, c'est que s'ils avaient... Oui, monsieur l'abbé.
Est-il permis à un Mayennais d'occasion mais d'origine d'Alsace-Lorraine.
Ah, et je dirais, c'est pour ça que vous avez les cheveux qui se dressaient sur la tête.
Et je dirais français jusqu'aux ongles, dont le grand-père est parti avec ses enfants avec 30 kilos de bagages, de dire que les propos de tenant que l'Alsace-Lorraine puisse avoir été allemande...
Oui, ça ne vous plaît pas plus qu'à moi. Quoi.
Voilà. Ouais, et par contre... à mon avis, la distinction essentielle à faire entre l'Allemagne de 1870 et l'Allemagne actuelle est essentielle. C'est-à-dire que dans nos pays, on parlait toujours en 1870 des Prussiens, et que l'Allemagne que, je dois dire, on n'a pas aimé en France, c'est cette Allemagne prussienne. C'est la Prusse qui a pris le dessus sur l'Allemagne qui était autrichienne à Sadova. Et Sadova était une catastrophe pour l'Allemagne. Et autant les rapports entre l'Allemagne sous férule autrichienne et catholique étaient très bons avec la France, si on en juge par nos derniers rois unis avec des gens de la famille d'Autriche, autant depuis que la botte prussienne a pris le dessus, la différence était énorme. Je dois dire que les choses ont changé après la guerre, puisque la partie prussienne est restée derrière le rideau de fer, et que la nouvelle Allemagne est à nouveau une Allemagne qui n'est plus prussienne. Et c'est pour ça qu'on a des rapprochements avec elle beaucoup plus grands maintenant.
Ouais, c'est une analyse intéressante, Gauthier.
Oui, ça va changer parce que quand même la Prusse est revenue via la DDR dans la...
Oui,
dans
mais la, pas la, comme dirigeante quand même.
Oui, voilà. Et donc, mais Berlin est redevenu la capitale. Hein.
Oui, donc on est reparti, c'est bien. Maintenant, il faut savoir si on aura la guerre raciale en France avant d'avoir la nouvelle invasion allemande. Bon, je l'ai dit, c'est pas... c'est vrai que le bouquin est extrêmement intéressant à lire.
Alsace-Moselle, s'il vous plaît.
Parlez dans le micro, s'il vous plaît.
On parle toujours des Français de l'intérieur, hein, quand les Alsaciens parlent. Hein.
Mais on chantait chez nous, ils ont germanisé la plaine, mais ils ne germaniseront pas nos cœurs.
Et d'ailleurs, quand on dit français, on ne doit pas dire Alsace-Lorraine, on doit dire Alsace-Moselle. C'est les Allemands qui disent Alsace-Lorraine. Alsace-Lothringen. Et quand on est français, on dit Alsace-Moselle.
Oui, ça y est, vous avez fini?
Oui, c'est bien.
Non, moi, je pensais que vous aviez quelque chose de plus à dire. Oui, moi je crois que je vois très bien l'intention du livre. C'est une espèce d'acte de charitable réconciliation des Allemands.
Ah ben oui.
Bon, ça va, on va pas continuer à se battre pendant des siècles.
Parce que je crois vraiment que c'est à l'origine de toutes les catastrophes de l'Europe.
Surtout que l'Allemagne n'est pas notre ennemi héréditaire.
Contrairement à l'Angleterre.
Voilà.
Il y a une très belle photo du chancelier.
Oui.
Je le signale. Qui est pas interdite, hein.
Non, non.
Qui est inattendue.
Il y a aussi une très jolie photo tout à la fin du livre.
Ah oui.
Ah oui, mais ça c'est la photo de l'auteur, ça n'a rien à voir.
Non, non, mais pas tout à la fin dans les pages, n'est-ce pas?
En tout cas, là, il y a donc une photo d'Hitler qui sort
d'une
église, et au-dessus de lui, il y a un crucifix qui semble être posé sur sa tête. C'est assez inattendu, quand même.
En fait, c'était quand même pas Staline, hein, Hitler.
Petit agitateur sous Staline, disait.
Un petit témoignage encore, quelqu'un d'origine autrichienne qui est installé dans le midi de la France. Et qui me disait, se rappelait dans son enfance que les pressions qu'il y avait dans leur famille pour que le portrait du Führer remplace le crucifix à l'endroit d'honneur.
Ah bah oui, ça c'est le propre des dictatures. Mon ami Edi Vartan me racontait la chose suivante. Quand il était enfant en Bulgarie, l'instituteur les réunit en classe un jour. Et leur dit, les enfants, est-ce que vous voulez des bonbons? Alors les enfants disent, oui, bien sûr. Alors quels sont ceux qui croient en Dieu? Alors c'était juste au moment du basculement entre la vieille Bulgarie royale et puis la Bulgarie communiste. Et naturellement, la plupart des enfants lèvent la main. Alors l'instituteur ouvre les portes de la classe, les fenêtres de la classe, et dit, vous avez demandé à votre bon Dieu de vous envoyer des bonbons. Alors les gosses, bon Dieu, envoie-nous des bonbons. Et curieusement, rien ne vient. Et à ce moment-là, l'instituteur dit, vous voyez, votre bon Dieu ne vous a pas attendu. Maintenant, vous allez crier, camarade Staline, envoie-nous des bonbons. Alors les gosses, camarade Staline, envoie des bonbons. Et à ce moment-là, il y avait des militants communistes qui étaient cachés le long du mur de l'école et qui ont foutu des poignées de bonbons par la fenêtre dans l'école. Et les gosses sont devenus immédiatement des staliniens convaincus. Voilà. Donc, c'est tout à fait... Dans toutes les dictatures, on a mis le portrait du dictateur à la place du crucifix. Et je pense pas, Philippe Gauthier, que même en tant que militant de l'antiracisme allemand, vous discuterez le fait que Adolf Hitler était un dictateur.
Oui. Ça bien paraît. Sûr, bon, ça, oui,
voilà.
Oui.
Là-dessus, on peut s'entendre.
Oui, là-dessus, on peut s'entendre. Mais, je voulais ajouter quelque chose. Moi, j'étais petit garçon à Caen pendant la guerre. Je sais que les églises étaient pleines de soldats allemands. Enfin, dans le fond de l'église en général. Bon, et ils n'étaient pas du tout inquiétés, hein. À la sortie de l'église.
Il n'y avait-il pas écrit Gottlieb sur la ceinture?
On ne peut pas comparer le système communiste au système national-socialiste en matière religieuse.
Il y a quand même des prêtres allemands qui me disaient aussi que la liste des prêtres qui étaient à Dachau, Auschwitz ou autre est assez importante.
Oui, mais c'était des résistants.
Ou pas des résistants, simplement, si on garde l'esprit catholique, forcément on devient résistant à tout ce qui est totalitarisme.
Ah oui, d'accord, mais parce que moi j'ai vu beaucoup d'Allemands qui n'ont jamais été, qu'ils soient catholiques ou luthériens, qui n'ont jamais été inquiétés pour leur pratique religieuse sous le Troisième Reich quand même.
Il paraît que c'était comment s'appelle-t-il, Léon de Grelle qui disait qu'il avait croisé un jour Adolf Hitler au moment où il allait à la messe, et Adolf Hitler dit, alors c'était raconté par Léon donc avec l'accent belge, et Adolf Hitler dit, ben Léon, ouvres-tu de ce pas bientôt de bon matin? Et de Grelle lui dit, je vais à la messe, mon Führer. Bon, tu as bien raison, si ma pauvre mère était encore de ce monde, elle irait avec toi. Voilà, c'est raconté par Léon de Grelle en personne.
Sa mère a été très catholique.
Voilà, il était tolérant avec les catholiques, c'est ça? Jusqu'au moment où il les envoyait contre le mur, quoi.
Non, mais je crois que c'était une question de des gens qui étaient hostiles au régime, mais non pas parce qu'ils étaient catholiques ou luthériens, c'est
donc,
ça?
Voilà. Envoyons au mur les gens hostiles au régime. Je suis assez pour ça, moi, mais malheureusement, je suis pas encore au pouvoir. On commencera quand je serai au pouvoir. Alors, ce livre est paru aux éditions. Il y a un certain temps déjà qu'il est paru. Hein,
il est en février.
Ah oui, seulement.
Oui, seulement, oui, oui. Non, il y en a eu un autre avant, c'est la germanophobie.
Ah, la germanophobie.
Mais qui est épuisé, mais j'espère que l'éditeur va le rééditer.
Il y songe.
Voilà.
Donc ça s'appelle Le racisme anti-allemand, c'est de Philippe Gauthier, c'est paru aux éditions d'Eterna. Et on peut se le
qui
procurer.
Est à la même adresse que Dualpha à Coulommiers.
Voilà. On peut se le procurer chez Dualpha, voire plus haut. Alors rappelons l'adresse
Boîte postale 58. Et aussi dans les bonnes librairies.
Donc je rappelle en tant qu'éditeur l'adresse Dualpha et d'Eterna, boîte postale 58 77 522 Coulommiers Cedex.
Merci Philippe Gauthier. Merci
et ceux qui veulent, je peux rajouter quelque chose
oui,
aussi.
Bien sûr.
Ceux qui veulent une dédicace, ils peuvent aussi le demander au 5 Léopard. Boîte postale 22, 78 112 Fourqueux.
Fourqueux.
F-O-U-R-Q-E-X.
Vous êtes gentil, vous répétez, s'il vous plaît.
F-O-U-R-Q.
Nous, depuis le début, 5 Léopard.
Allez, 5 Léopard, boîte postale 22.
Dans le micro.
Boîte postale 22, 78 112.
Oui.
Fourqueux. F-O-U-R-Q-U-E-U-X.
Bien. Eh bien, on change complètement de sujet, encore que M. Labézin s'est impliqué dans la conversation en tant que... Il a trouvé le moyen de s'impliquer, ce qui pour un Mayennais est normal, de s'impliquer en tant qu'Alsacien. C'est vrai que Zinz, ça sonne quand même beaucoup plus Alsacien que Mayennais.
Oui, en fait, c'est surtout origine Lorraine, mais à la limite presque de la
Moselle,
l'Alsace-Bossus, Sarreguemines, et puis Nancy du côté maternel.
Bien. Alors, je ne sais pas si c'est dans avec ce sang que vous avez acquis la capacité de travail stupéfiante dont vous faites preuve. C'est vrai que quand on voit les ouvrages que vous avez publiés, d'abord ce sont des ouvrages, là j'en ai un sous les yeux qui doit, il fait quand même 1100 pages. L'autre qui est nettement plus petit fait 500 pages. Le troisième qui est encore plus petit fait 450 pages.
Et en fait, c'est un tout de...
Et c'est un tout.
D'une série qui s'appelle Consumatum Est, c'est-à-dire tout est consommé à la perfection. Donc c'est une des sept paroles de notre Seigneur en croix, qui marque l'accomplissement dans toute la vie de notre Seigneur des prophéties de l'Ancien Testament.
Et alors ça, c'est une partie de votre activité, enfin une partie de votre production. Il y a une autre partie qui est tout à fait extraordinaire, je dois dire, qui est un catalogue synoptique.
C'est ça.
Alors c'est un énorme bouquin là, énorme vraiment, mais très très précieux, extrêmement bien fait. Enfin pour tous les gens qui s'intéressent aux questions de la catholicité authentique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est authentiquement catholique, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les interprétations qu'on peut donner des textes, quels sont les rituels valides et les rituels non valides. Quelles sont les erreurs, quelles sont les hérésies, quelles sont les mauvaises interprétations des textes. Alors c'est un travail, c'est indispensable, vraiment.
Oui, c'est-à-dire il y a à chaque fois deux pages en vis-à-vis. Dans ces deux pages, il y a à chaque fois deux colonnes en vis-à-vis. Pratiquement dans les pages de gauche, on passe toutes les thèses actuelles, si je peux dire, que ça soit côté traditionnaliste ou que ça soit côté officiel. Chacun se critique, chacun s'exprime. Et de l'autre côté, c'est uniquement des textes officiels de la Sainte Église, principalement les papes, depuis l'origine, donc jusqu'au pape Pie XII, et des canons, des saints conciles, le droit canon, les catéchismes, etc., ou quelquefois... des auteurs anciens qui sont agréés généralement de tous les côtés. Et ce qui est catastrophique, si je peux dire, c'est que on voit des écarts de tous les côtés.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est pas de la littérature de distraction, hein. C'est vraiment un outil de travail.
Oui.
Ça fait, je crois, au moins 400 ou 500 pages.
Non, 800.
800.
800 pages en grand format.
800 pages dans un grand format, c'est ça.
C'est ça.
Un format A3, comme on dit maintenant, pratiquement. Non, A4, ça c'est le...
C'est A3.
A3. Grand format. Et alors on va parler d'abord de, si vous voulez, de la partie... enfin de...
Peut-être ça serait plutôt
c'est mieux de parler de ça.
De commencer par là, parce que si vous voulez, l'autre partie va donner une autre dimension.
D'accord.
Si vous voulez, il y a dans mes travaux deux parties, la partie, si je peux dire, théologique et la partie d'études prophétiques. Donc la partie théologique, c'est le catalogue, le petit catalogue, la revue aussi, la revue Subtum Presidium, qui a été fondée en 1985. Et puis, il y a la partie prophétie. Je dois dire tout de suite, prophétie tirée de la révélation divine et non pas les prophéties privées. Donc uniquement celles de l'Ancien et du Nouveau Testament et de leur rapport, notamment avec l'Évangile, pour la première partie, et ensuite avec le futur, avec le livre 5. Donc, on arrive déjà au temps de l'Antéchrist et de la fin du monde. Avec le livre 6 qui est en préparation, on arrive à la parousie, le déluge de feu final, le jugement dernier. Et avec le livre 7, on arrive donc les fins dernières, avec les peines de l'enfer et les diverses demeures, les diverses couronnes, etc. du ciel. Donc il y a ces deux parts de travail. Et je dois dire qu'ils se recoupent, puisque avec le livre 5, on revient à l'actualité. C'est un message qui est assez lourd à porter, je dois dire, parce que malheureusement de voir que de tous les côtés officiels ou même traditionnels, on s'écarte plus ou moins de la doctrine qui est bimillénaire de l'Église, c'est tragique. Parce que l'Église ne pouvant se renier, s'il y a des reniements, qui dit reniement de la doctrine dit s'écarter aussi de l'Église. Et donc on en arrive à quelque chose de très grave. Et on serait tenté, avant de le dire, je dirais, de faire comme le prophète Jonas, c'est-à-dire de partir en courant pour ne pas avoir à dire ce qu'on a à dire. Et si vous voulez, donc cette constatation donc d'opposition, avec le, il y a des résumés de ce gros catalogue, il y a le petit catalogue qui lui fait en format normal, qui fait à peine 170 pages. Celui-ci est centré, il vient de sortir, donc il y a à peine un mois qu'il est paru. Il est un résumé du catalogue concernant uniquement, c'est original que ça soit un abbé en soutane qui vous dise ça, mais c'est la triste réalité, les oppositions de la fraternité Saint-Bédis avec la doctrine catholique. Et ce qu'il y a de terrible, si vous voulez, c'est que le travail est divisé en 55 points. Il y a une petite proposition qui résume l'erreur. Les textes de la fraternité Saint-Pédis et de ses alliés qui montrent que c'est bien ce qu'ils soutiennent. Très souvent, il y a des textes d'eux-mêmes qui contredisent ce qu'ils viennent de dire, et donc ils rappellent en partie la doctrine catholique. Et après, c'est uniquement des citations pareilles des papes, des docteurs, et des conciles. Donc c'est pratiquement irréfutable, et c'est pourquoi la seule réponse que j'ai pour le moment, c'est un silence de plomb, et ça fait des années que c'est comme ça.
Mais vous comprenez bien vous comprenez bien pourquoi. Les catholiques qui ont déjà été extrêmement ébranlés, violemment ébranlés par le concile, oui. Et qui ont trouvé un refuge dans la tradition, et grâce à Mgr Lefebvre, dans la tradition... Oui. De la fraternité Saint-Pédis, quand ils voient arriver quelqu'un qui leur dit « Mais la fraternité commet elle aussi des erreurs », ils disent « Mais enfin, alors où est-ce qu'il faut aller quoi ? Où est la vérité ?» Puisque de toute façon, la vérité, selon vous, elle n'est représentée par personne, ni par les conciliaires, ni par les traditionalistes.
Alors, si vous voulez, on arrive à... je dirais, à l'orée de l'autre sujet, c'est-à-dire du sujet prophétique, celui qui concerne le livre sur l'Antéchrist. Et là, je dois dire que le message est très lourd à porter. Mais quand on lit les 70 premières pages de ce livre et qu'on voit les prophéties concernant les derniers temps et qu'on compare avec ce qu'on est en train de vivre, eh bien, on est obligé de se rendre compte que ces prophéties, on est en plein dans leur réalisation, au moins dans le commencement de leur réalisation. Si vous voulez, pour le montrer, il suffit de résumer cette première partie. Elle part d'une citation du catéchisme du Concile de Trente, disant qu'il y a trois signes principaux précurseurs de la fin du monde, à savoir l'évangélisation universelle, la grande apostasie et l'antéchrist. La méthode est toujours la même, c'est-à-dire que dans ce livre, comme dans tous les autres, on part des prophéties révélées, alors cette fois-ci dans l'Ancien et dans le Nouveau, et des commentaires par les pères. Et si vous voulez, on commence par dire l'évangélisation universelle, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que les pères entendent par là? On voit qu'ils l'entendent à deux niveaux. Il y a d'abord l'évangélisation universelle simplement quant à la rumeur. Et celle-ci, elle a déjà été réalisée au temps des apôtres. Il y a eu comme une rumeur de l'évangile déjà dans le monde entier. Comme le dit saint Paul, cet évangile fructifie partout. Au moins, on en a entendu. Mais il n'y a pas eu des apôtres partout. Et il n'y a pas eu non plus d'église fondée partout. C'est surtout dans l'ancien monde romain que ça s'est fixé. Et l'autre réalisation, qui doit être celle de la fin, parce que le Concile de Trente dit cela en citant tout simplement une parole de notre Seigneur dans l'Évangile. Cet Évangile sera prêché dans le monde entier et après viendra la fin. Or, les pères entendent par là que cet Évangile, il y aura des prédicateurs qui partiront dans le monde entier. Les plus exigeants disent, il y aura des églises fondées dans le monde entier. Et à ce moment-là, ça sera réalisé. Et vous avez quelqu'un comme Origène, qui est du IIIe siècle, qui dit quand on verra réaliser partout cette évangélisation, eh bien, si on a la foi en la révélation, il y aura le corollaire, et après viendra la fin. Or, quand on commence à étudier cette partie historique, on voit que à partir de la bataille de Lépante, qui a été déterminante, puisque jusque-là, c'est les musulmans qui avaient les mers. Et une fois qu'ils ont été battus à Lépante, les navires ont pu à nouveau partir dans tous les sens. C'est grâce à ça que le Nouveau Monde a été découvert et qu'on a pu aller jusqu'en Australie et partout. Et à partir de là, les plus audacieux, partout, on voit les plus audacieux, les missionnaires plus audacieux encore que les trappeurs, coureurs de fourrure ou que les marchands coureurs d'or et partout les missionnaires sont les premiers à arriver. Ils sont suivis souvent après et la plupart du temps ils commencent par verser leur sang, mais ils ont réussi dans le monde entier à implanter l'évangile et ils l'ont implanté dans pas seulement comme une prédication, mais il y a eu partout des évêques qui ont fondé des églises avec des prêtres, etc. Donc partout, il y a eu des églises autochtones, notamment même en Chine, au Japon, mais en Australie, mais en Océanie, mais dans les îles. Donc avec ce tour du monde, on arrive à démontrer que ce premier signe est réalisé.
Vous soulevez un point de discussion. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a une espèce de contradiction dans les termes? C'est-à-dire, vous nous dites, d'une part, l'Église n'est plus représentée aujourd'hui, que ce soit l'Église conciliaire, enfin, l'Église de Christ n'est plus représentée, que ce soit par les conciliaires ou par les traditionnalistes, elle n'est pas représentée valablement. Et vous nous dites ensuite, en revanche, l'Église est présente sur la totalité de la planète, donc la première condition de l'Apocalypse, pour oui. Dire clairement... est réalisée. Or, en fait, on peut aussi dire que, ben non, elle n'est pas réalisée dans la mesure où les églises, en tout cas les bâtiments ecclésiaux, oui. Sont occupés par des gens dont vous-même vous dites qu'ils ne représentent pas l'Église.
Alors, c'est une question très intéressante, et je dirais que ça marque encore plus le caractère divin de cette prophétie, c'est que les trois signes s'interpénètrent et marchent ensemble, et le plus étonnant, c'est que au moment même où les mers s'ouvrent pour l'évangélisation universelle, il y a au XIVe siècle la renaissance du paganisme, la renaissance du paganisme qui commence à triompher avec le protestantisme, qui arrache au moins un cinquième de l'Europe à l'Église. Mais dans le même temps, vous avez saint François Xavier qui redonne beaucoup plus d'enfants à l'Église qu'elle n'en a perdu. Avec les Indes et...
Oui, ça c'est à cette époque-là.
Mais c'est curieux, mais ça continue. Dans les siècles suivants, ça continue. Par exemple, au XIXe siècle, c'est la persécution en France des congrégations religieuses et autres, et leur expulsion, qui fait que les religieux, devant quitter le pays, eh bien, ils vont, pour certains en Belgique, mais il y en a beaucoup qui vont au Canada, qui vont en Amérique du Sud, pour beaucoup, et qui deviennent missionnaires. Et vous avez, par exemple, à la fin du 19e siècle, vous avez 90% des missionnaires catholiques qui sont des Français. Mais dans le même temps, vous avez eu en France l'avance du laïcisme dont le pape Léon XIII a dit que c'était l'athéisme, moins le nom. Et donc les deux marchent ensemble.
Oui, ça j'entends bien. C'est simplement la plus question que je me pose, c'est celle de la réalité de la présence de l'Église dans le monde aujourd'hui, parce que vous vous dites par ailleurs que les évêques, par exemple, aujourd'hui ne sont pas validement consacrés.
Alors ça, ce sont des questions, je dirais, plus techniques, oui, qui sont difficiles à aborder en si peu de temps.
En si peu de temps, c'est sûr, mais si on admet cette idée que les évêques ne sont pas valides, ça veut dire que les sacrements qui découlent d'eux, comme par exemple le sacrement de confirmation,
oui,
n'est pas valide. Et par conséquent, si des catholiques reçoivent partout dans le monde des sacrements invalides...
Ce qu'il faut bien dire, c'est que les deux ont marché ensemble, mais que puisqu'on va vers la fin... Forcément, c'est l'apostasie. Alors d'abord, pour qu'il y ait grande apostasie, il fallait qu'il y ait évangélisation universelle. Car on peut être païen ou quoi, pour être apostate, il faut être fils de catholiques, de chrétiens. Même tous les protestants, qu'ils le veuillent ou non, sont fils et petits-fils de catholiques. Et il y avait, avant Luther, il n'y avait pas de protestants. Je sais bien qu'il dirait que le contraire, mais de mauvaise foi, parce que tout le monde était uni derrière la papauté. Alors, au fur et à mesure, comme disait tout à l'heure très bien le docteur Dor, il y a ces deux cités qui se combattent, et dont saint Paul dit que le mystère d'iniquité est déjà en marche contre le mystère du Christ, et les deux se combattent. Avec la Révolution française, c'est, je dirais, le mystère d'iniquité qui commence à avoir le dessus, au moins au niveau des États. Avec le laïcisme, mais c'est le triomphe complet. Car peut-on être catholique sans dire avec saint Paul, il faut qu'il règne. Et il importe qu'il règne, non pas seulement sur les individus, mais sur les sociétés. Dire qu'on doit être laïque, c'est complètement contraire au message de l'Évangile.
Alors le troisième...
Alors le troisième volet, justement, va ensemble. Si vous voulez, le troisième, c'est l'Antéchrist. Et justement, le mystère d'iniquité, saint Paul dit qu'il y a un obstacle qui le tient en haleine. Et en étudiant de près les prophéties, on voit que cet obstacle, c'est que le démon a été lié par la passion du Christ et par la Sainte Messe. Dans la mesure où le démon n'est plus lié, et il est délié, et il peut à nouveau redonner toute sa force. Saint Augustin dit, oui, mais vous dites que le démon est lié, et comment se fait-il qu'il arrive à faire tant de maux encore? Eh bien, dit-il, c'est comme si un chien était lié à une chaîne. Si vous allez vous mettre la main devant, il vous mordra. Mais par contre, il n'a plus de pouvoir pour vous enchaîner comme il le faisait dans l'Ancien Testament.
Alors, il y a quand même,
Tandis qu'on voit, je dirais, avec Halloween ou des choses comme ça, avec Harry Potter et autres, on voit que, au fur et à mesure que le véritable catholicisme, le véritable christianisme recule, forcément, c'est l'autre cité qui avance, et donc c'est le satanisme qui avance. C'est logique. Et les deux, le frein qui arrêtait le diable, eh bien, c'était le pouvoir des clés, justement. Le pouvoir des clés et le pouvoir de la Sainte Messe. Or, maintenant que la Sainte Messe a été lessivée, c'est-à-dire que on a transformé en une scène anglicane, il n'y a plus le saint sacrifice de la croix qui est exprimé. Les sacrements du Nouveau Testament expriment, ou plutôt réalisent la grâce qu'ils expriment. S'ils ne l'expriment pas, ils ne la réalisent pas. Pourquoi les protestants sont d'accord pour dire que maintenant ils peuvent célébrer avec le nouveau culte officiel? Tout simplement parce qu'ils y reconnaissent leur scène.
On fait la pause technique et je vous redonne la parole. Bien, je reçois l'abbé Vincent Marizens pour son œuvre qui est énorme et évidemment, elle est tellement importante que c'est impossible d'en faire même le survol rapide. Ce soir, on est obligé de d'évoquer quelques points de cette œuvre. Et on va en venir au titre du dernier livre paru, hein, qui est l'Antéchrist et le temps de la fin du monde. Alors la question qui se pose depuis très très longtemps, c'est celle de la personnalité de cet Antéchrist. D'abord, il y a une confusion entre Antéchrist, Antichrist. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que l'Antéchrist et...
Alors je dois dire, pour faire la liaison entre le deuxième signe et le troisième, c'est-à-dire la grande apostasie et l'Antéchrist, c'est que la grande apostasie, ça correspond à l'abomination dans le lieu saint. Et indécence, si vous voulez, parce qu'il y en a plusieurs, Saint Jérôme dit par exemple la perversion de tout le dogme. Quand vous verrez la perversion de tout le dogme dans l'Église, vous saurez que c'est le moment. Il dit quand vous verrez une idole mise sur l'autel, or à Assise, on a eu le Bouddha sur l'autel. Et Saint Augustin dit, il s'assiera, alors là il s'agit déjà de l'Antéchrist, il s'assiera in templo Dei. Et il dit, on peut faire deux lectures. Soit la lecture de l'Antéchrist individuel, qui s'assiera dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église, en se faisant passer pour le Christ. Mais on peut faire aussi une autre lecture, dit-il, selon le grec, il s'assiera en temple de Dieu. En temple de Dieu, c'est-à-dire comme une société qui se fait passer pour le temple de Dieu.
Alors là, il y a eu des tas d'hypothèses. Hein. On va citer les plus extrêmes. J'ai même entendu des gens dire l'Antéchrist, c'est Wojtyla.
Hein. Oui, ce n'est pas mon cas.
C'est pas votre cas.
Ce n'est pas mon cas.
Dire.
Il y a, par contre, il y a une figure dans l'Apocalypse qui montre la préparation de ce temps de l'Antéchrist. Et la préparation, c'est une bête qui avait comme les deux cornes de l'agneau, mais qui parlait comme le démon. Et les commentateurs disent, les cornes de l'agneau, les cornes, c'est le pouvoir. Elle avait apparemment le pouvoir reçu du Christ, mais c'était un imposteur. Et ils vont même jusqu'à dire les deux cornes, c'est-à-dire comme un bicorne. Mmh. Or, depuis Paul VI, on a abandonné la tiare et on a à nouveau un bicorne. Mmh. Et la doctrine qui est enseignée actuellement, ce n'est plus la doctrine du Christ, c'est la doctrine du panthéisme antique, le salut universel, etc., qui est celui du paganisme. Il parle comme le dragon, c'est-à-dire comme le démon. Et si vous voulez, après cela, ce corps, c'est comme le corps de l'Antéchrist, il aura une tête, et une tête qui doit régner mondialement. Et il doit régner mondialement sur le plan religieux et sur le plan politique. Or, quand on voit ce que les pères essayent de commenter, il y a des moments où on se prend, nous, à sourire, de voir les difficultés qu'ils ont à expliquer des choses qui, pour nous, sont évidentes. Par exemple, dans l'Apocalypse, c'est dit « la bête fera remuer son image et parler son image
oui. ».
On pense tout de suite à la télévision. À la télévision.
Tous les moyens de...
Les deux témoins qui s'opposeront à l'Antéchrist seront mis à mort et le monde entier les verra. Ils font des hyperboles pour expliquer qu'il y aura un grand déplacement de peuple, qu'il faut prendre la partie pour le tout, alors que nous, avec la télévision, on comprend tout de suite. Oui. Et en fait, on voit aussi qu'il y a le thème de la tour de Babel, où on veut réunir le monde entier sous une férule, et je dis que le mondialisme actuel, avec le regard de la révélation, on voit qu'on prépare le lit à l'Antéchrist, il n'aura presque plus rien à faire pour s'imposer.
Donc la dimension spirituelle, ça serait finalement ce que l'abbé de Nantes avait appelé le MASDU, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle.
Exactement.
Et le pouvoir temporel, ce serait le mondialisme, alors le mondialisme économique et politique, le gendarme du monde.
Voilà, exactement.
Évidemment, si l'Antéchrist doit avoir la tête de bouche, c'est pas très sympathique.
Non, mais par exemple, il y avait une analyse très intéressante, effectivement, puisque vous parlez de l'abbé de Nantes, quand il commente le passage de Paul VI à l'ONU, il dit qu'il a commencé par rentrer dans la chapelle
de méditation.
Voilà, et ensuite il est rentré, et comme il l'explique très bien, il fait le rapport, c'est la meditation room de la loge.
Oui.
Et une fois qu'il a été initié, il a pu...
Le cabinet de réflexion.
Voilà. Or, on retrouve la même chose dans mon petit ouvrage qui est tout petit, hein, de la grande initiation, où on voit sur la couverture Jean-Paul II en train de recevoir le signe de Shiva par une princesse hindoue, c'est-à-dire qu'il reçoit comme un baptême hindouiste. Et on voit dans les autres pages qu'il a été initié à tous les faux cultes, parce que le démon a sa logique aussi, et on ne peut pas faire, on peut pas devenir synchronisateur de tous les faux cultes sans avoir été initié dans chacun. Et une fois qu'il a été initié dans chacun, il a pu faire le catalyseur et ça a été assise.
Voilà. Alors, la seule chose que je peux recommander, c'est la lecture, au moins des résumés que vous proposez, parce que on peut lire le catalogue, mais qui est énorme, et il faut vraiment avoir un sujet de passion pour ça.
Je dois dire quand même que ce qui est très important, c'est que dans le catalogue, il y a à la fin 10 tables qui font qu'on peut l'utiliser comme un dictionnaire.
Ah oui, absolument.
Ça le transforme complètement.
C'est une lecture extrêmement facile. Sinon, si on l'utilise comme un outil de travail.
Voilà.
Mais c'est un outil de travail très particulier parce qu'il faut être passionné par ces questions-là.
C'est vrai.
En revanche, l'ensemble des consommatumes, c'est un travail formidable.
Mais je crois que plusieurs journalistes m'ont dit que ils arrivaient à épuiser toute une sorte. Par exemple, si vous voulez savoir communisme, socialisme,
oui,
qu'est-ce qu'on dit maintenant? Officiellement, mais qu'est-ce qu'ont dit les papes avant? Et on trouve tout de suite sur tous les sujets.
Alors, il y en a une version raccourcie. Alors, bien entendu, ça n'est que le catalogue que vous dressez, vous, monsieur Labézin, des oppositions que vous avez trouvées entre la doctrine de la fraternité oui. Saint-Pédis et la doctrine catholique.
Il y en a
deux. Ça plaira pas naturellement aux traditionnalistes.
Il y en a deux autres petits résumés. Donc la grande initiation, c'est surtout des photos marquantes avec un petit commentaire, voilà. Qui est très court celui-là. Et il y en a une autre aussi sur les officiels, c'est les 6 voies de la démonstration de la vacance.
Et ces ouvrages, on peut se les procurer.
On peut se les procurer. Donc,
donnez-nous les adresses. Il y a plusieurs appels qui voudraient entamer la conversation, on voit la discussion, mais d'une part, on n'a pas suffisamment de temps, et puis d'autre part, je crois que le plus simple, parce qu'un auditeur, par exemple, dit, mais enfin, dites-nous quels sont les points d'opposition de la doctrine de la fraternité avec la doctrine de l'Église.
Il y en a 55 points. Voilà. Il suffirait de lire la première page de Garde et on les voit tout de suite. Ils sont résumés.
Je pense qu'il faut que, pour entamer la conversation, la discussion et même la disputation avec vous, il faut d'abord prendre connaissance du sujet.
Voilà.
Et moi, je suis tout à fait ouvert pour organiser une rencontre avec à ce micro avec un des prêtres de la fraternité. Si il veut venir,
j'en serais très heureux. Je l'avoue. Je serais très heureux parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à discuter avec eux.
Bah écoutez, on verra. Je vais leur faire la proposition, puis on verra bien s'ils veulent venir, s'ils jugent que c'est utile et positif. Alors, en tout cas, pour l'instant, on peut obtenir des informations sur obtenir vos ouvrages à l'adresse que vous allez nous donner.
Oui, et la revue aussi. Donc, c'est aux éditions Subtum Presidium, Notre-Dame de l'Épine, 53 480 Saint-Léger-en-Charny. France. Et alors, on peut aussi la voir, au moins pour le grand et le petit catalogue pour ici, à France Livre, donc 6 rue du Petit Pont, près de l'île de la Cité à Paris, à la Procure, 4 rue de Mézières, près de Saint-Sulpice à Paris, et à la librairie Boinard, le comptoir Malouin, place des Frères Lamennais à Saint-Malo.
Alors, toutes ces adresses seront rappelées dans le Libre Journal, je le redis, mais de toute façon, vous pouvez trouver, puisque je pense que ce qui intéressera les auditeurs qui voudraient éventuellement prendre la défense ou contre-argumenter avec vous sur la question de la position de la fraternité, le petit catalogue est en vente, ce qui est assez élégant d'ailleurs, à France Livre, 6 rue du Petit Pont.
Oui, et c'est 9,50 €, donc c'est vraiment à la portée de tous.
Merci, monsieur l'abbé. Alors, je vais vous demander, les auditeurs vont entendre un grand raffut parce que il faut qu'on fasse tourner les plaies. On va faire les chaises musicales. Je vous rendrai vos livres plus tard parce que vous êtes très chargé. Monsieur Guerre, si vous voulez prendre la place de monsieur le curé, et monsieur l'abbé, la guerre remplace l'église, c'est assez inhabituel. Je me tourne maintenant vers... on va changer complètement de sujet. J'ai tous les bouquins devant moi, c'est l'horreur. Je me tourne maintenant vers le docteur Catherine Rossi-Planel, qui est chirurgien-dentiste, et qui vient de publier un bouquin très bien fait, très intéressant, qui s'appelle le Dicodent.
Oui, bonjour.
Bonjour, docteur. Alors, le Dicodent, donc, comme son nom l'indique, c'est le dictionnaire des dents.
Exactement, oui.
Alors, c'est charmant parce que ça commence par amour.
Oui.
Le A comme amour.
Amour de ses dents.
Et Z comme zen. Bon, oui. Alors, on ne sait pas. On va voir ce que la zénitude a à voir avec les dents. Vous allez nous expliquer ça. Mais il y a eu beaucoup de livres de dentistes qui ont été publiés. On a expliqué des tas de choses.
Oui, il y a eu beaucoup de livres de dentistes qui étaient plus des sous forme de romans ou sous forme de philosopher sur leur profession.
Ouais. Tandis que là, c'est vraiment à l'usage du.
C'est vraiment fait pour le patient.
Pourvu de dents.
Voilà.
Et même pour ceux qui auraient la nostalgie de l'époque où ils avaient des dents, ça peut être une lecture amusante. Alors, c'est très bien illustré. Il y a des dessins amusants et puis des dessins édifiants aussi, enfin, instructifs. Et on découvre en le lisant à quel point c'est important, les dents.
Oui, c'est fondamental. On n'imagine pas.
Ouais, moi, je croyais que ça.
Même moi, en commençant mes études de dentaire, j'imaginais pas que c'était important à ce point-là.
Mordre les méchants, mais pas du tout. C'est... Et puis alors, il faut quand même que je dise une chose, monsieur l'abbé est dans le studio, écoutez, il faut lire la première, pas la première page, mais la présentation. D'habitude, on dit, je dédie ce livre à ma maman, ou à mon papa, ou à ma sœur, et tout. Et là, c'est, le Dicodent a été confié à Marie, reine de la paix, le 1er mai 2001, à Medjugorje et Bosnie-Herzégovine, tous enfants de Dieu, marchant sur le chemin de la vie, en confiance et avec amour. Moi, je trouve ça absolument charmant. Même si je suis pas Medjugorjien, je dois dire que, confier un livre, un dictionnaire des dents à la Sainte Vierge, c'est très bien. Vous avez toutes mes félicitations, si ça peut vous faire plaisir. Alors, question traditionnelle, pourquoi avez-vous jugé utile de faire un Dicodent?
Mais écoutez, moi je suis chirurgien dentiste depuis 18 ans, et depuis que je soigne des dents, je suis, je ne sais pas quel terme vous dire, mais enfin je suis effarée de l'ignorance des patients. Et je me dis, mais vraiment, s'ils étaient informés, déjà 50% de leurs problèmes dentaires seraient résolus.
Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de jouer contre votre camp là? Marqué des points contre votre club, comme dirait Fersen.
Alors écoutez, je vais vous dire, moi ça fait 18 ans que je transmets ce message à mes patients. Ce qu'il y a dans le Dicodent, c'est vraiment le résultat de 18 ans d'exercice quotidien. Et malgré tout, on a l'impression que les gens sont sourds. Donc, je le dis à la radio.
Donc ça, les sourds n'en sauront pas plus, mais ceux qui liront votre livre, oui.
Voilà, mais c'est vraiment fondamental. Il y a une information qui, je pense que si vraiment les gens avaient conscience de ce qu'ils ont dans leur bouche, de ce qu'ils pourraient faire, donc le Dicodent parle beaucoup de prévention et aussi informe, c'est-à-dire explique. Quel est le processus de la maladie de la dent? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Comment ça se développe? Et quelles sont les conséquences? Et je crois que vraiment quand... je ne sais pas, moi, le jour où j'ai appris ça, à la fac dentaire, tout d'un coup, j'ai changé complètement mon regard sur mes dents. Et je n'ai pas de problème dentaire. Donc, effectivement, je suis peut-être arrivée avec un bon patrimoine, avec déjà un terrain favorable pour mes dents, mais... Déjà, j'ai complètement changé ma manière de m'occuper de mes dents. Et ça...
Mais je crois qu'aujourd'hui, depuis un peu pour ma génération en tout cas, déjà enfant, on nous apprenait à soigner nos dents. On disait, il faut brosser vos dents à la fin de chaque repas, etc. Bon. Est-ce qu'on a fait des progrès? Est-ce que maintenant il y a des conseils plus plus élaborés?
Au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a une grande la prévention dentaire, on en parle beaucoup, même à la télévision. Bon, maintenant, il faut voir quel type de prévention on nous offre. Le Dicodent est aussi un regard différent sur les dents. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous propose la médecine classique, la dentisterie classique, c'est brossez-vous les dents, ne mangez pas de bonbons et prenez du fluor. À mon avis, je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et entre autres, si j'ai commencé le Dicodent par le mot amour, c'est parce que justement, déjà, aimer ses dents apporte une énergie phénoménale au niveau de sa santé et de sa santé dentaire. Donc déjà là-dedans, elles se renforcent elles-mêmes, ne serait-ce que par l'amour qu'on peut leur porter, l'amour et l'attention qu'on peut leur porter. Ça, c'est la philosophie du Dicoda.
Mais question technique, on dit le fil dentaire, les choses, ouais. C'est utile,
c'est fondamental. C'est fondamental, effectivement. Il faut se brosser correctement les dents, passer du fil dentaire. Alors, je suis
le jet dentaire.
Vous parliez du fil dentaire parce que une dent a 5 faces. Si vous ne passez que la brosse à dents, vous ne brossez que 3 faces de la dent. Mm-hmm. Les seuls instruments qui permettent de nettoyer les interstices, c'est le fil dentaire ou la brossette interdentaire, sachant que quand on peut passer la brossette interdentaire, c'est que déjà on a une maladie des gencives et que les gencives se sont rétractées. Parce que normalement, sur des gencives saines, la brossette interdentaire ne passe pas. Donc, le fil dentaire est fondamental. Si vous ne passez pas le fil dentaire, c'est comme si vous laviez la joue droite et pas la joue gauche.
Maintenant, le fluor, vous avez évoqué le fluor tout à l'heure. Alors, il y a une dispute, une polémique terrible sur le fluor. On dit, certains disent qu'il faut mettre du fluor dans l'eau, d'autres disent que c'est un moyen d'abrutir les populations, comme si elles avaient besoin de ça. À mon avis, le travail est déjà bien avancé. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites que c'est pour remplacer des carences alimentaires, en fait.
Alors, écoutez, pour moi, une carie dentaire n'est jamais due à une carence en fluor. Donc ça, c'est un travail de base, hein. Donc le fluor est là justement pour pallier toutes les aberrations alimentaires et d'hygiène. Donc effectivement, si vous prenez du fluor, vous aurez moins de caries dentaires. Ça, c'est indiscutable. Mais si vous vous brossez correctement les dents et que vous faites attention à votre alimentation, vous n'aurez pas de caries dentaires non plus. Et il faut voir que le fluor est un toxique. Donc vous imaginez toutes les conséquences que ça peut avoir aussi au niveau général.
On fait des morts avec des très belles dents.
On fait pas des morts avec des très belles dents, faut pas exagérer, mais enfin, on fait quand même des enfants avec des pathologies générales qui sont rarement attribuées au fluor, mais qui, quand on connaît, ne serait-ce qu'en homéopathie, la matière médicale d'un remède qui s'appelle fluoric acide, avec des entorses à répétition, des problèmes de peau, des douleurs osseuses, des problèmes d'eczéma, enfin, il y a toute une série de symptômes très caractéristiques, et on voit bien que ça, c'est dû à la prise de fluor.
Est-ce que vous nous disiez que vous avez 18 ans d'expérience? Ça paraît difficile à croire parce que vous faites vraiment très jeune, on a l'impression que vous avez une trentaine d'années, ce qui supposerait que vous avez commencé à exercer la dentisterie à 12 ans, ce qui est quand même très jeune, même pour quelqu'un de particulièrement doué. Est-ce que vous avez remarqué depuis le début de votre carrière que les choses allaient de mieux en mieux, de mal en pis?
Écoutez, moi, j'avoue que j'ai été privilégiée parce que j'ai commencé à faire de l'homéopathie dentaire dès le début de mon exercice. Donc, depuis toujours, mes patients sont venus me voir pour cette spécificité. Et ce que j'ai remarqué donc depuis 18 ans, c'est que autant moi aussi au début, pour moi l'énergétique dentaire, enfin c'est un terme qu'on a bien été obligé de nommer ce type de dentisterie avec un nom, et on a choisi l'énergétique dentaire. Donc au début je faisais surtout de l'homéopathie, puis petit à petit je me suis formée à d'autres techniques de médecine alternative. Et aussi avec tout un rapport au psychologique et à l'émotionnel. Donc, mes patients, j'ai trouvé surtout une grande évolution au niveau de mes patients. Et au début, si vraiment c'était... ils venaient me voir parce qu'au lieu de leur donner des antibiotiques, je leur donnais de l'homéopathie. Au jour d'aujourd'hui, ils viennent me voir parce que c'est pour eux une transformation personnelle de s'occuper de leurs dents.
Est-ce qu'il y a un moment où l'état de la dentition est tel qu'on peut considérer que c'est foutu, c'est pas récupérable?
Ah oui, bien sûr. Mais bon, de toute façon, on construit toujours quelque chose avec quoi qu'il y ait en bouche, on arrive toujours à construire quelque chose. Déjà, il faut que le praticien le veuille s'investir dans un travail qui est souvent difficile. Il faut que le patient le veuille aussi, hein, et qu'il soit conscient de ce que ça va lui amener de positif, hein. Et puis il faut aussi que financièrement il puisse suivre.
Alors, hein, justement, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une véritable irresponsabilité du système sanitaire français, dans la mesure où les soins dentaires sont extrêmement mal remboursés? Alors que si on vous lit, on voit que c'est capital, c'est un des aspects les plus importants de la santé publique, par les conséquences éventuelles d'une mauvaise hygiène dentaire ou d'un mauvais traitement.
Alors moi, volontairement, dans le Dicodan, je n'ai absolument pas parlé d'argent, parce que à mon avis, l'argent est un prétexte. Il y a quelque chose qui m'a confortée dans ce que je suis en train de vous dire, c'est que depuis quelques années, la Sécurité sociale a mis en place le bilan bucco-dentaire des adolescents systématique. Donc tous les adolescents recevaient un petit coupon, allez vous faire un contrôle dentaire gratuitement. Et donc au bout de 5 ans, ils ont fait un petit peu une étude de tout ça et ils se sont rendus compte que malgré la gratuité des soins, les jeunes ne se faisaient pas plus soigner qu'avant. Et moi, je suis persuadée que l'argent est un prétexte. Effectivement, quand il y a un devis entre 50, bon, je vous parle encore en francs, mais entre 50 et 100 000 francs, ça fait sauter en l'air et les gens disent « Oulala, c'est trop cher, au revoir madame, au revoir docteur ». Mais 2 jours après, ils vont aller s'acheter une voiture à 100 000 francs.
Oui, mais on va plus loin avec une voiture qu'avec une
détrompez-vous.
Non, ah bon.
Détrompez-vous.
Moi, j'ai essayé de rouler sur les dents,
moi,
mais ça marche pas.
Je préfère avoir de bonnes dents qu'une belle voiture.
Ah oui.
Et je parle en connaissance de cause. Donc, je veux dire, effectivement, il y a des gens qui financièrement ont des problèmes et ne peuvent pas assumer. Ils peuvent même pas se payer une voiture, effectivement. D'accord. Mais je veux dire, il y a toujours des solutions.
Donc pour vous, il y a aussi la solution des... Alors, je vous pose la question. Il y a une solution économique qui consiste à aller dans les écoles dentaires pour servir en quelque sorte de terrain d'entraînement à la,
oui, mais faut pas croire,
à la jeunesse étudiante. Alors, c'est une bonne solution ?
Ça peut être une bonne solution, mais je veux dire, il faut peser le pour et le contre. D'abord, au niveau de l'école dentaire, c'est facturé aussi. Ce n'est pas gratuit.
Oui, mais c'est quand même nettement moins cher.
C'est nettement moins cher, peut-être.
Pour les petits soins, enfin les soins...
Peut-être, mais bon, il faut savoir que pour soigner une dent, au lieu de la soigner en un quart d'heure, vous y passez 3 jours.
Oui, c'est vrai.
C'est fait par des étudiants.
Puis si vous tombez sur un cancre...
Non, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être cancre ou pas cancre. Ça a le fait que les soins sont lents parce que tout est contrôlé par les professeurs. Oui. Ils ont des horaires bien précis. Enfin, je veux dire, il y a toute une... C'est quand même assez contraignant. Je veux dire, quand vous avez toute une bouche à refaire, le problème, c'est que c'est très sectorisé aussi à la fac dentaire. Vous avez le prof qui s'occupe de la prothèse, le prof qui s'occupe des gencives, le prof qui s'occupe... Donc, il n'y a pas une vue globale d'ensemble. Je veux dire, là, bon, effectivement, pour l'urgence, ça peut être une solution, mais je veux dire, il y en a 50 000 autres de solutions. Mais je crois que là, on est dans un cadre où on prend conscience de la globalité de la bouche, on prend conscience de l'importance de la santé dentaire par rapport au corps dans sa globalité. Et ce genre d'approche ne peut pas du tout se faire dans un centre de soins ou dans un centre mutualiste. Je crois qu'il faut faire ça justement en collaboration avec un praticien qui est capable de faire une synthèse globale de votre bouche, de comprendre les tenants et les aboutissants de tous les soins qu'il va vous faire et de vous les expliquer. Je crois que c'est vraiment une collaboration entre le patient et le praticien qui est fondamental et qui est la clé de la santé dentaire et de votre santé en général.
Ce qui est amusant, enfin ce qui est frappant, et on s'en aperçoit en lisant votre livre, c'est que les dents, on en parle finalement assez peu dans la vie. On dit bah j'ai mal aux dents, ouais là, mais ça va pas beaucoup plus loin. Mais en fait, quand on considère la vie d'un homme, on s'aperçoit que on est sans arrêt, la dent joue un rôle important.
Oui, complètement.
Par exemple, la première dent d'un enfant, c'est un événement, très important dans la vie. Il y a tout un folklore qui s'installe autour de ça, avec la petite souris, enfin...
Oui, la perte de la
première dent. Il y a aussi le côté... il y a les blagues sur... les blagues archi usées, des vieux gags de bande dessinée. On va parler tout à l'heure de bande dessinée, mais du gars qui attache sa dent branlante à la poignée de la porte et qui prend naturellement la porte dans le nez parce qu'elle s'ouvre dans le mauvais sens. Enfin, ensuite, il y a les dents du vieillard, la dent unique de la grand-mère qui va la planter dans la cuisse de son mari. Ça, c'est Pagnol. Vous connaissez l'histoire de Pagnol, non ? C'est superbe. Vous connaissez cette histoire ? Qui est raconté par Marcel Pagnol, c'était son grand-père avait été compagnon du Tour de France et il était tailleur de pierre. qu'il était parti très jeune faire le tour de France. Et la grand-mère, ils étaient tout jeunes mariés, et la grand-mère avait entendu dire que son jeune mari avait eu au cours de ce tour de France des bontés pour une mère, c'est-à-dire une patronne de Cayenne, qui était un hôtel pour les compagnons du Tour de France. Et pendant toute sa vie, elle va traquer son mari en lui disant « Dis-moi la vérité, tu m'as trompé avec la mère de Lyon, je crois. » Et alors à chaque fois, il disait « Mais non, pas du tout, du tout. » Et puis à 97 ans, et le vieux couple est là, ils sont dans leur maison, et Bagnol dit que sa grand-mère n'a plus qu'une unique dent branlante au milieu de la bouche, et elle continue à harceler son mari, et lui, à bout d'arguments excédés, 97 ans, il dit « Bon, écoute, on est vieux maintenant, je viens de te dire la vérité. Ouais, c'est vrai, j'ai couché avec elle. » Et il dit, Bagnol dit, à ce moment-là, on a entendu un hurlement terrible, et quand on s'est précipité, la dernière dent de mémé était plantée dans la cuisse du grand-père. Donc ça, c'est l'importance de la dent dans la culture française. Mais il y a beaucoup d'autres moments où la dent est importante. Il y a beaucoup de superstitions autour de la dent. Et ce qui est curieux, justement, c'est cette espèce de différence entre l'apparente indifférence des gens à leur denture ou à leur dentition. Comment dit-on, d'ailleurs? Comment dites-vous, vous, les dentistes? Denture ou dentition?
La denture est fixe, c'est-à-dire c'est l'état statique, et la dentition, c'est les différentes étapes de croissance des dents.
Ah, d'accord. Donc on a une denture après toutes les étapes de la dentition.
Voilà,
on aura appris quelque chose ce soir. Et
Non, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement par rapport à ces événements de la vie, toutes les dents ne sortent pas en même temps et ne tombent pas en même temps. En tout cas, au niveau des dents.
Il y a des expressions, c'est la dent de sagesse, par exemple.
Exactement. Et donc, ça a été un travail que j'ai pas été la seule à la faire, parce qu'il y a quand même d'autres dentistes qui l'ont fait avec moi, et enfin parallèlement ou avec moi. Et c'est le symbole, c'est-à-dire que chaque dent est chargée d'un émotionnel. Et cet émotionnel, il est représentatif de la période à laquelle la dent sort.
Ah, expliquez-moi ça un peu plus en détail.
Alors, je me suis beaucoup basée sur les travaux de Rudolf Steiner, qui a exprimé que la dent était la représentation du moi. Et donc, par rapport à ça, j'ai mis en place un tableau de symbolique. Donc, séparant la dent, la bouche en quatre parties, en quatre cadrans, haut droite, bas gauche et haut gauche. Voilà. Et donc, chaque partie représente quelque chose de notre vie. Donc, notre haut à droite, en haut à droite, c'est qui l'on est dans la vie sociale et dans notre profession. En bas à droite, c'est plus ce que l'on a. On est dans le côté matériel de la vie sociale et professionnelle. Côté gauche, en bas à gauche, c'est le matériel familial. Et en haut à gauche, c'est
matériel
notre...
familial, vous voulez dire
c'est le côté familial, mais plus dans le côté matériel et dans le côté matériel, c'est ça. Et en haut à gauche, c'est plus notre émotionnel personnel, qui on est nous-mêmes. Enfin, oui, qui on est.
C'est amusant, ça.
Voilà, et chaque dent a un symbole très particulier, et ça vous le trouvez dans le dico-dent, vous avez un schéma avec chaque dent, une signification bien précise de
l'émotionnel. Ça m'a échappé, oui, j'ai lu rapidement, j'ai parcouru...
Chapitre symbolique dentaire à la fin.
Regardez ça, ça m'intéresse beaucoup, ce genre de sujet. Il y a aussi la symbolique du rêve, puisqu'on dit que quand on perd une dent dans un rêve, c'est que quelqu'un va mourir.
Oui, ça, il faut plus s'intéresser... à l'étude du rêve.
Oui.
Là, au niveau des dents, je ne connais pas.
Mais c'est vrai que quand on perd une dent, parce que la dent, à part les cheveux, c'est le seul organe, je ne sais pas si on peut dire ça, qu'on perd de son vivant. Enfin, normalement, je dirais normalement. Non, vous allez dire que c'est pas normal.
Non, c'est pas normal.
mais couramment. Il y a beaucoup plus de gens qui perdent des dents que de gens qui perdent un œil ou un bras ou une jambe. Bon, il y a encore plus de gens qui perdent des cheveux, mais en deuxième stade, c'est la dent. Et il y a quand même quand on perd une dent, je parle d'expérience, c'est quelque chose de très traumatisant au fond, parce que on a l'impression d'une espèce de deuil et puis de quelque chose d'irrécupérable. Évidemment, ça ne repousse pas.
Mais il y a des personnes qui ne sont pas du tout touchées par ça. Vous avez des personnes, la dent fait mal, arrive, dit bon, vous me l'arrachez, et puis c'est tout. Mais il y en a pour qui c'est vraiment, c'est ce que vous dites, c'est un deuil qu'ils n'arrivent pas à faire. Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura des... Alors, la fameuse question, le vaccin anti-carie?
Bah, écoutez, je n'espère pas.
Ça, c'est...
Parce que je pense que ça fera beaucoup plus de dégâts que de bien.
C'est-à-dire...
Je crois le meilleur vaccin anti-carie...
Vous pensez que les gens n'iront plus du tout faire soigner leurs dents?
Ah non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec ça.
Je ne parle pas du plan de point de vue économique.
Je pense que le vaccin anti-carie, comme... on va mettre les pieds dans le plat, comme tous les vaccins, voilà, hein, vont faire beaucoup plus de dégâts que de bien.
Et maintenant, est-ce qu'il vous paraît vraisemblable qu'on invente un jour, ça c'est un de mes rêves, hein, une espèce de germe, une graine qu'on mettra dans la gencive et qui fera pousser de nouvelles dents? Ça vous paraît possible,
ça serait, je sais pas, mais ce serait vrai que ce serait une belle chose.
Bon, il faut vous travailler là-dessus, puis quand vous avez trouvé, vous m'appelez, j'arrive.
Ouais. Mais vous savez, je vais vous dire, en parlant de vaccins... Le meilleur des vaccins, c'est la brosse à dents, déjà.
C'est vrai, bien sûr. Alors, quel dentifrice faut-il utiliser? Est-ce que c'est vrai qu'il faut utiliser du savon de Marseille?
Oh, écoutez, chacun a ses petites manies, vont vous dire que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, moi, j'aime bien, bon, je ne vais pas donner de marque, mais il y a aussi un dentifrice que j'aime bien, que je conseille à tous mes patients. Mais
pourquoi vous ne voulez pas donner de marque?
Ah, mais je peux.
Bah, bien sûr,
alors, écoutez, moi, je prescris les dentifrices Velleda.
Ah, c'est joli comme nom, en plus.
Ouais. Et voilà. ils sont vraiment, ils ont une action cicatrisante au niveau de la gencive qui est vraiment, on voit vraiment les résultats. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'important, c'est la technique de brossage.
Alors, oui.
Il y a une technique. C'est très difficile à la radio, le mieux ce serait la télévision.
Oui. Revenez dans quelques années.
Voilà. Schématiquement, si vous voulez, c'est un mouvement rotatif à prédominance verticale et il faut masser les gencives en même temps que l'on se brosse les dents.
Alors, brosse souple, demi-souple dure?
Brosse à dents médium.
Médium.
Voilà, médium, petite tête, poils synthétiques et il ne faut pas écraser les poils de la brosse à dents sur les dents.
Et combien de temps?
Quand vous avez tout brossé, c'est-à-dire vous partez d'un côté... Par exemple, en bas à droite, vous faites tout l'extérieur, après tout l'intérieur, le dessus, le dessous, et pareil en haut.
Et quand
vous avez fini, voilà, et en massant votre gencive en même temps que vous brossez vos dents.
Alors, le jet dentaire.
Alors, le jet dentaire, c'est idéal pour enlever les débris alimentaires qui sont coincés entre les dents, ou surtout, là où c'est le plus utile, c'est sous les bridges. Quand on a des bridges qui sont fixes, hein, très souvent, il y a un espace donc entre le bridge et la gencive. C'est normal, on peut pas faire autrement. Donc, il y a des aliments qui restent coincés à cet endroit-là. Donc, le jet dentaire, rapidement, ça va nettoyer tout ça. Mais il faut savoir que le jet dentaire n'enlève pas la plaque bactérienne. Et c'est la plaque bactérienne qui pose des problèmes au niveau des gencives et au niveau des dents. Donc, de toute façon, il faut frotter.
Les chewing-gums dentifrices.
Les chewing-gums dentifrices, c'est pareil, ça va faire de la mastication, donc ça va faire un petit auto-nettoyage, mais c'est juste à midi si vous n'avez pas le temps de vous brosser les dents et que vous voulez avoir la laine fraîche. Mais ça ne va pas remplacer un bon brossage. Et puis généralement, dans ces chewing-gums, vous avez des édulcorants. Donc les édulcorants, si vous en prenez tous les jours, vous risquez d'avoir les intestins dans un sale état au bout de quelques années, sans parler des risques de diabète.
Et la brosse rotative?
Ça fait plus vite ce que fait une brosse à dents manuelle, mais il faut bien la guider comme une brosse à dents manuelle.
Je vais arrêter de vous poser des questions techniques parce qu'après ils n'auront plus de raison de lire votre... Non, c'est pas vrai, il y a beaucoup de choses dedans. Le bicarbonate dessous.
Alors le bicarbonate...
Pour blanchir les dents.
Pour blanchir les dents, oui, c'est bien, ça blanchit en superficie. Ça va pas blanchir le centre de la dent, mais ça enlève les dépôts. Oui.
Et actuellement, la grande mode, c'est de faire des petites gouttières et puis de mettre un liquide pour
blanchir. Oui, tout à fait, ça c'est pour blanchir les dents, c'est avec du peroxyde de carbamine. C'est un produit qui va blanchir l'intérieur de la dent. Donc oui, on porte ça la nuit, entre 12 et 18 nuits, mais ça marche très bien.
Écoutez, pas risqué,
moi je suis jamais allée extraire une dent pour aller voir si elle n'était pas abîmée, mais j'en fais souvent à des patients et ça se passe très bien, il n'y a pas d'effet secondaire, enfin les patients sont très contents.
Ils vendent actuellement en pharmacie justement un produit avec une espèce de petite gouttière qui...
Oui, alors ceci dit, c'est vrai que c'est dommage de faire ça sans contrôle médical, parce que on, effectivement, s'il y a, oui. il y a des contre-indications, il faut absolument les respecter.
Vous voyez comment je trompe sur la, les sujets. Hein. On a parlé tout à l'heure de la fin du monde pendant une demi-heure, on n'a pas posé une question, Victoria. Là, on parle des dents, alors là, c'est, ça bombarde de questions.
Je vais vous faire un aveu,
je me disais, la fin du monde, c'est quand même...
La fin du monde, après moi, le déluge. Bon, mais les auditeurs aussi ont posé beaucoup de questions.
Ils n'ont pas arrêté toute la soirée.
Que pensez-vous des enfants qui ne perdent pas leurs dents de lait? Mon fils a 27 ans et est dans cet état, que conseillez-vous?
Bon, alors il y a deux choses. Les enfants qui ne perdent pas leurs dents de lait, de toute façon, il faut toujours faire une radio pour être sûr qu'il y ait des dents en dessous. Donc son fils de 27 ans qui a encore des dents de lait, ça veut dire qu'il n'y a pas de dent définitive en dessous. Ou alors que la dent définitive est partie dans une autre direction, mais surtout pas en direction de la bouche. Donc ça, c'est une première chose. Sinon, si toutes les dents sont là et que les enfants tardent à perdre leurs dents de lait, très souvent, au niveau symbolique, on dit que ce sont des enfants qui n'ont pas envie de grandir.
Pour les, taper très fort.
Pour un garçon, quel est l'âge normal de la chute des incisives supérieures, des dents de lait, justement?
12 ans, 13 ans, ça dépend.
Ah, c'est là qu'ils deviennent très beaux, oui, c'est normal.
C'est la puberté. Hein. Généralement, les canines sont les dents de la puberté. Hein. Ce sont les dernières dents de lait qui tombent, normalement. Mais des fois, ça arrive aussi qu'elles tombent avant.
Il me manque 10 dents. Est-ce grave, docteur? La sécu ne veut pas me prendre en charge et je n'ai pas les moyens de remplacer les dents qui me manquent.
Alors, est-ce que ce sont des dents qui ont été arrachées ou des dents qui n'ont jamais poussé?
Oh non, c'est sûrement des dents qui sont tombées, qui ont été arrachées,
bah,
etc.
Écoutez, oui, là,
j'interprète.
C'est très délicat, moi, ces histoires de sécu. Oh, je veux dire, là, c'est... C'est délicat.
C'est-à-dire, vous pensez que... Vous nous avez dit que pour vous, la question financière était souvent un argument, c'était souvent un alibi, en fait. Parce que oui. Les gens ne veulent pas aller chez le dentiste parce qu'ils ont peur, en
voilà,
réalité, c'est
exactement,
ça.
Oui.
Et qu'ils disent, c'est trop cher, donc je n'y vais pas. Oui. Maintenant, il y a aussi la question de la prise en charge, parce qu'il y a des maladies, c'est ça que je voulais vous dire, il y a des maladies qui sont prises en charge à 100%. Je vais dire une chose qui va bien entendu choquer, mais un cancer du fumeur, un gars a fumé pendant toute sa vie, oui. Il attrape un cancer du poumon ou un cancer du fumeur à 50 ans, il est pris en charge à 100%.
Tout à fait.
S'il a un cancer. Mais si, parce qu'il a fumé, il a des problèmes dentaires, il n'est pas pris en charge à 100%.
Exactement.
C'est complètement aberrant.
C'est aberrant, je suis d'accord
voilà,
avec vous.
Oui, d'accord.
Oui. Chez un prothésiste, les prix sont très abordables. Pourquoi chez vous, c'est hors de prix?
Ben, vous savez, quand on pose une prothèse dans la bouche d'un patient, on va pas l'acheter chez le prothésiste et on le donne pas dans la main du patient. Bon, il y a un diagnostic, il y a un plan de traitement, il y a un choix thérapeutique, il y a souvent, ça demande réflexion parce qu'il y a le choix entre plusieurs choses, donc ça demande un travail qui nous prend peut-être 5 minutes, mais on a eu plusieurs années d'études pour pouvoir faire ce diagnostic en 5 minutes. Donc ça, il faut pas... C'est comme Picasso qui va vous faire un dessin en 5 minutes, il va vous vendre 50 000 francs, d'accord ?
Picasso comme dentiste, il n'aurait peut-être pas été terrible.
Mais Picasso, ça fait quand même plusieurs années qu'il a travaillé. Bon, ben nous, c'est pareil. Pour faire un diagnostic, on a fait des études et on continue à en faire en formation continue. Ensuite, on a un matériel.
Un matériel, oui, qui est formidablement coûteux.
On a un fauteuil dentaire, ça coûte 200 000 francs.
Ouais, ouais.
Bon, donc, on a des remboursements de crédit. Enfin, je veux dire, il y a des charges fixes dans un cabinet qui sont incompressibles. D'accord? Bon, et puis après, la dent, on la taille, on la prépare. Hein, ensuite, on prend des empreintes. On envoie ça chez le prothésiste. Le prothésiste nous renvoie une partie métallique qu'on doit essayer. On doit l'ajuster avec les dents d'à côté et ensuite on la scelle et une fois que c'est scellé, on est amené des fois à revoir le patient pour refaire des petits réglages. Donc tout ça, ça justifie la différence entre le prix de la prothèse que l'on achète chez le prothésiste et le prix qui est facturé au patient à la fin
oui,
de la journée.
On peut prendre une comparaison, c'est un peu comme si on achetait une voiture pièce par pièce et qu'on la monte soi-même. C'est pas certain qu'on réaliserait une grosse économie.
Voilà.
D'autres questions?
Doit-on arracher toujours les dents de sagesse à partir d'un certain âge?
Non, pas du tout.
Non, j'ai les miennes.
Vous n'êtes pas du tout arracheuse, moi, c'est assez évident. Hein.
Oui.
Que pensez-vous du scellement des sillons avec du composite?
C'est très bien.
Question technique.
C'est très voilà. Bien, c'est vraiment une... Oui, oui.
Le fil dentaire...
Ah, le scellement des sillons, ah bon? Oui.
C'est, à mon avis, une des meilleures méthodes de prévention actuelle.
Ah bon?
Le fil dentaire est-il vendu exclusivement en pharmacie?
Je ne pense pas, non.
Bon, pour moi, je prenais du fil dans la bobine de ma mère quand j'étais petit.
Ouh, ça coupe. Que pensez-vous des amalgames dentaires avec des métaux lourds comme le mercure?
À
les
fuir.
Enlevez-vous.
À fuir.
Si vous avez un patient qui en a.
Alors, je ne les enlève pas systématiquement parce que à chaque fois qu'on touche une dent, c'est toujours une agression. Donc, effectivement, si la dent a besoin d'être soignée, ben, j'enlève l'amalgame au mercure, mais je n'en remets pas. Voilà. Mais ça, c'est vraiment... il faut que vous sachiez qu'il est interdit de jeter du mercure dans les poubelles.
Oui, dans la bouche,
on a le droit d'en mettre dans la bouche. Donc, c'est à vous de choisir.
Connaissez-vous l'anesthésie au tambour? Ou du tambour, je ne sais pas.
L'anesthésie du tambour? Non.
Ou au tambour.
En général, ça me réveille plutôt le tambour.
Mon fils, c'est pendant... Non, c'est pour éviter qu'on entende les cris, je suis pas sûre. Mon fils aîné, 13 ans donc, a toutes les dents du fond qui sont à peine recouvertes d'émail. Y a-t-il une solution?
Oui, je pense que très souvent, ça arrive quand il y a eu une maladie dans la première, les premières années de la vie, grosse fièvre ou du rachitisme, des choses comme ça. Donc, l'émail a des défauts. Et ça, il faut attendre que toutes les dents soient en place. Et après, on recouvre les dents. Donc, si elles ne sont pas beaucoup abîmées, on fait ce qu'on appelle des zones lait. C'est une petite pellicule d'un matériau prothétique qui recouvre la surface de la dent.
On peut aussi essayer aussi de sucer des médailles en émail. Non, ça ne marchera pas.
Je crains les piqûres dans la gencive. Font-elles toujours aussi mal?
Non.
Bah écoutez, ça dépend du praticien. Et chez le même praticien, ça dépend de son humeur du jour.
Et aussi l'humeur
du patient. Ce qu'il y a, c'est que quand vous allez vous faire piquer la gencive, il faut vous assurer de ne pas avoir une grosse dette chez votre dentiste. Payer ses honoraires la veille.
Et alors, question indiscrète, donnez-nous votre numéro de téléphone, car je cherche un dentiste, mais on peut donner son nom.
Ah, le nom, il y a un livre. Alors, c'est le docteur Rossi Pianel, je l'ai dit.
Achetez le livre, vous saurez tout.
Et en plus, je rappelle quand même que...
Et l'objectif de ce livre n'est pas de faire venir tous les patients à mon cabinet. Non, je ne veux pas soigner la France entière.
J'espère que vous vendrez plus de livres que vous n'avez de patients.
J'espère aussi. Et l'objectif de ce livre est vraiment que chaque patient puisse créer un dialogue constructif avec son praticien. C'est vraiment un livre qui amène les gens chez leur dentiste.
Puis il est bien fait, il est rapide, il est clair, il y a des exemples, c'est un outil quoi.
C'est vrai. À mettre dans la bibliothèque à côté du Larousse.
Oui.
J'ai 75 ans, je n'ai eu qu'une carie et mes dents sont tombées toutes seules, donc sans carie. Pourquoi les dentistes m'ont-ils dit qu'ils ne savaient pas la cause de cette chute?
Parce que je pense que c'était des dentistes qui n'étaient pas du tout conscients de la maladie parodontale et que cette dame a dû avoir beaucoup de tartre. Ce tartre a dû détruire l'os qui tenait ses dents. Et puis un jour, ses dents sont tombées parce qu'elle n'avait plus d'os autour.
Et parce que le dentiste ne l'avait pas détartré.
Parce que le dentiste ne l'avait venu, avait pas détartré les dents. Donc il y a beaucoup de gens qui croient que le détartrage est nocif pour les dents. Eh bien non, le détartrage sauve les dents. Donc il faut faire un détartrage tous les 6 mois. Très important.
Et dans l'avenir, la pose des dents sur les implants serait effectuée directement par le prothésiste dentaire. Qu'en pensez-vous?
Si le prothésiste dentaire a reçu la même formation que les dentistes, pourquoi pas? Mais je pense que surtout au niveau des implants, je veux dire, il y a quand même un regard médical à poser sur les... Je crois que chacun son métier, vous savez, un bon prothésiste, il n'a rien à envier à un dentiste.
Si on se ferait poser une rotule artificielle par le gars qui l'a fabriquée,
Chacun son métier. Et puis, vous savez, moi j'ai de très bons rapports avec mon prothésiste. On est vraiment deux professions complémentaires. On a besoin les uns des autres. Et c'est justement en dialoguant et en arrivant, on arrive à faire des choses qui sont bénéfiques pour le patient.
C'est tout pour
merci. Merci. Les auditeurs ont pu poser des questions. Alors, docteur Catherine Rossi-Pianel s'appelle le Dicodent, c'est facile à retenir.
Articulez. Le docteur Vondant... Catherine Rossi, RO2SI, plus loin, trait d'union, Pianet. P-I-A-N-E-T.
Pas du tout.
Italienne.
Ah, Ça,
de loin, hein, de loin.
Ça, c'est une consonance un peu Pianel. Pianel, ça fait un peu corse. Alors, le dicodent, vos dents ont des secrets à vous dire. Pourquoi y a-t-il le mot zen dans le dictionnaire?
Mais parce que il y a tellement d'informations qui sont livrées dans le dicodent que certaines personnes pourraient se sentir paniquées et dire je n'y arriverai jamais. Donc c'est pour ça que je dis zen. Ne vous inquiétez pas. Donc vous avez
un disciple qui dit à son gourou, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais j'essaierai de faire de mon mieux. Et le gourou lui répond, alors très très, c'était cette série de télévision là qui est petit escargot, petite limace. Tu te rappelles pas de ça?
Petit scarabée.
Alors petit scarabée qui dit, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais j'essaierai de faire de mon mieux. Et le gourou lui répond, si tu t'égares, reviens toujours à la nature et écoute ton cœur. Voilà. Tu as un livre qui commence par une oblation à la Vierge Marie et qui se termine par un appel à écouter son cœur, ça peut être qu'un bon livre, même s'il parle dedans. Merci, docteur Catherine Rossi-Pianel.
Merci beaucoup.
Le dicodent, c'est paru chez Guy Trédaniel. Alors, on a l'habitude, c'est un de mes éditeurs favoris, parce qu'il fait des livres qui m'intéressent. Ça tombe bien. Donc, Guy Trédaniel, le dicodent de Catherine Rossi-Pianel. À bientôt.
Merci.
De nouvelles aventures de la dent.
Au revoir.
Et maintenant, je donne la parole à mon ami Guy Le Hideux,
pour de nouvelles aventures,
qui va parler d'une des idoles de mon enfance.
Alors, nous allons parler des petits formats et principalement d'un personnage qui s'appelait Serge, qui s'appelait le Petit Duc.
Le Petit Duc.
Et nous allons parler aussi de son créateur. Alors, tout d'abord, peut-être, il faut présenter l'invité. Jean-Yves Guerre, bonjour, bonsoir. Bonsoir, puisque l'émission est rediffusée aussi.
Bonjour.
La nuit et en matinée. Alors Jean-Yves Guerre, vous avez écrit un remarquable ouvrage qui s'appelle, attendez, je le prends là entre les mains, Le mystère de vie dévoilé, et c'est vous-même qui l'avez édité.
Oui, alors effectivement, je l'ai édité à compte d'auteur. Pour raconter tout ce qui tourne, tout ce qui a tourné déjà d'une part sur De Vita. De Vie, c'est le pseudonyme de De Vita, sur ce dessinateur de bande dessinée. Et ce qui est advenu à cet homme,
du dessinateur
mais après sa disparition.
Que vous avez retrouvé.
Que j'ai retrouvé.
Mais il faut quand même dire, pour ceux qui l'auraient oublié, ceux qui l'ont lu quand ils étaient enfants, à mon avis, ne l'auront pas oublié parce que c'était un personnage mythique, ce qui était le Petit Duc. Hein.
Alors peut-être avant, moi j'irai encore plus loin, Serge, si tu permets, j'aimerais qu'on
parler des petits formats.
Voilà, qu'on explique ce qu'étaient ces petits formats, et puis progressivement on arrivera à De Vita.
Les petits formats, c'est ce qui a concouru dans l'esprit des adultes de l'après-guerre à la mauvaise réputation de la bande dessinée. On disait, ils appelaient ça les petits Mickey, ils disaient, t'es encore en train de lire tes petits Mickey, fais voir ça. Alors ils ouvraient et ils voyaient les aventures de Kiwi ou Pepito ou
Black le Rock
etc. Voilà. Et alors naturellement on avait tu ferais mieux de faire tes devoirs, tu ferais mieux de lire des bons bouquins plutôt
et
que de regarder
même des bonnes bandes dessinées parce que les parents préféraient quelquefois Cœur Vaillant, Âme Vaillante au petit format.
Tu as quel âge?
Je suis un peu plus âgé que toi, mais pas
plus. On n'est pas du même milieu, parce que chez moi, c'était interdit, la bande dessinée. Absolument interdit. Et après, quand il a fallu convaincre...
Même pas Tintin.
Après, il a fallu convaincre que Tintin, c'était quelque chose d'acceptable. Bon, alors c'est venu. Puis après, Astérix a débloqué tous les mécanismes. Mais à l'époque des petits formats, j'achetais ça en allant chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère, comme elle était russe, elle regardait ça d'un air absolument étranger à tout. Et par conséquent, j'avais la paix. Mais si je rentrais à la maison avec mes petits formats, je me faisais tirer les oreilles d'abondance.
Mais ce qu'on peut dire peut-être, ce qui a fait la mauvaise réputation de ces petits formats, c'est peut-être dû, à mon avis, à la fameuse loi du 19 juillet 1949, loi qu'on appelait sur la publication destinée à la jeunesse et qui réprimait, si on peut dire d'une certaine manière, notamment dans les écoles, parmi le corps enseignant, qui réprimait un petit peu la lecture de cette bande dessinée, qui est devenue, qui a pris au bout de quelques années un format beaucoup plus réduit qu'on appelle le petit format,
pour permettre
justement peut-être aux petits écoliers polissons de les cacher plus facilement.
Oui, mais alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'était parfaitement injuste cette réputation des petits formats, parce que quand on les revoit maintenant, on s'aperçoit qu'ils étaient d'abord esthétiquement c'était de, souvent de très grande qualité. Très le dessin était très beau. Oui. Alors notamment le dessin de Devita et notamment les dessins de les Mirko, les aventures du petit Luc, c'est splendide sur le plan esthétique.
Mais il y a
splendide.
Eu des grands dessinateurs.
Et c'est un précurseur du Goprat par le jeu
par
des
le noir et blanc,
noir,
oui,
blanc
contraste. Bon.
Oui. Et deuxièmement sur le plan des valeurs véhiculées. Alors c'était l'héroïsme, voilà. Le courage, voilà. Le dévouement, la loyauté, la fidélité, l'honnêteté. Tous les personnages positifs étaient mis en exergue et en lumière. Ouais. Et les personnages négatifs, qui étaient assez rares, étaient toujours présentés d'une façon ridicule, péjorative. Et puis il y avait des personnages intermédiaires qui étaient des personnages comiques et qui étaient généralement le vieux trappeur. Alors, c'était copié sur le cinéma, mais ils n'étaient pas alcooliques, puisqu'il fallait pas les montrer en train de boire, bien entendu. Mais il y avait quand même le personnage qui buvait un petit coup de trop. Il y avait l'animal de compagnie qui était voilà, toujours héroïque, magnifique, oui. Le beau chien, etc., etc. Et puis le jeune homme, le jeune garçon, orphelin, neveu, enfant recueilli, enfant trouvé, etc., qui recevait du héros l'enseignement des valeurs fondamentales. Et ça, tout, que ce soit Blake LaRocque, que ce soit le petit Luc, on
Mickey
retrouve
le
ça
Ranger,
tout le temps.
Etc. Oui,
donc c'était très très positif pour l'éducation des enfants. Et c'est de l'éducation qui a été faite malgré les parents, c'est curieux. Et les parents ne voulaient pas ouvrir ça. C'était interdit.
Alors les petits formats, il faut dire que ces petits formats à la française sont nés en 1949 et que le premier petit format était Caméra 34, édité par les éditions Vaillant. Exactement le 15 avril 1949, n'est-ce pas? Et que 6 mois plus tard, eh bien, ce sont les Lyonnais qui vont s'emparer des petits formats. Et là, il va y avoir une profusion de petits formats et d'éditeurs aussi.
Ça s'appelait les éditions Luc, d'ailleurs.
Oh, il y en a eu plusieurs.
Il y a eu la SER de Mouchot. Il y a eu Aventure et Voyage de Bernadette Ratier. Où Marcel Navarro participait déjà à cette aventure, c'est le cas de le dire.
Marcel Navarro, c'est un scénariste.
On va en parler, oui.
Voilà.
On va même l'écouter.
Et Marcel Navarro, donc, qui avait fondé une première maison d'édition avec Bernadette Ratier, qui s'appelait Aventure et Voyage, au bout de quelques années, en s'associant avec une autre personne, a fondé les éditions Lug, toujours à Lyon.
Une autre personne qui s'appelait Alban Vistel.
En réalité, bon, son prénom était Auguste Vistel, Alban étant son nom de résistant, puisque cet homme-là était résistant pendant la guerre dans le maquis lyonnais, dans la région lyonnaise, sous le nom de capitaine Alban. Mais en réalité, bon, il s'appelait Auguste Vistel.
Alors, caporal. Tout le monde.
On revient à Marcel Navarro, qui a été quand même un dessinateur, qui est toujours, il est toujours vivant, heureusement, hein. Mais il n'écrit plus, mais qui a été un scénariste très prolifique. Moi, je l'appelle le Charlier un peu des petits formats, le Charlier lyonnais, n'est-ce pas, Jean-Yves Guerre? On peut l'appeler comme ça?
On peut le dire, effectivement, puisque c'est quand même lui qui est à l'origine de la création de beaucoup de bandes dessinées, notamment dans sa maison d'édition, jusqu'à aux années 80. C'est lui qui a créé de nombreux personnages qui ont été ensuite repris et scénarisés par le dessinateur, bien souvent.
Et donc aussi le créateur, on y revient, donc des éditions Lug avec... Auguste Vistel.
Voilà.
Alors, dans cette maison d'édition, il y a eu un petit format célèbre qui s'appelait Kiwi.
Effectivement, alors c'est parmi les petits formats de la maison Lug, Kiwi, c'est un petit format qui a tout de suite plu aux petits lecteurs de l'époque, et je soulignerai même que c'est un petit format qui existe encore actuellement.
Oui, c'est incroyable.
Oui, qui a une longévité extraordinaire et que l'on trouve encore donc dans les kiosques et les marchands de journaux. Et ce petit format était constitué de 3 parties. Une première partie qui décrivait les aventures du trappeur Blake LaRocque. Un trappeur très fort, un géant avec des cheveux blonds, enfin on le
un grand blond aux yeux bleus,
voilà, les yeux bleus vraisemblablement. La partie médiane
qui combattait les méchants anglais,
qui combattait effectivement à l'époque de l'indépendance des États-Unis, qui combattait les anglais. Dans ce petit format Kiwi, ensuite, il y avait une bande un petit peu humoristique qui s'appelait Kiwi, d'où vient le nom de ce petit format.
C'est-à-dire de l'oiseau, hein.
De l'oiseau néo-zélandais, et dont les premières bandes ont été dessinées par César.
Par Jean César, oui.
Effectivement.
César, c'est l'auteur du petit fantôme.
Du petit fantôme dans Vaillant.
Voilà. César, Arthur, qui était Arthur, le petit fantôme.
César, qui était aussi un extraordinaire dessinateur réaliste, qui travaillait aussi pour les Lyonnais, avec notamment Briquiac, Yac et Briquiac.
Tout à fait, absolument. Et puis la troisième partie de ce kiwi était constituée par le fameux petit duc, qui est l'objet de notre entretien aujourd'hui. Le petit duc, ce jeune homme, disons, à qui il est arrivé un nombre extraordinaire d'aventures dont on va vraisemblablement parler.
Alors, le décor, c'est des montagnes carpathiques, subcarpathiques, paracarpathiques, du rocher, peu de végétation, des châteaux, du roi fou, ouais. Hein.
Et de Louis II de Bavière.
Louis II, c'est ça, le roi fou. Hein. Ça, ouais. Des sapins, des précipices insondables,
ouais.
Des orages terrifiants, les personnages, c'est Mirko, son chien,
Rex.
Rex, grand chien noir.
Il avait un autre nom.
Alors, en réalité, son chien, Devita, l'avait appelé Wolf. Et c'est Navarro, la maison Lugue, Navarro, toujours avec, sans doute, avec cette histoire de censure et d'autocensure due à cette fameuse loi, l'a débaptisé pour l'appeler Rex. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la première parution, la pré-parution du Petit Duc, pour annoncer le Petit Duc, Marcel Navarro avait coutume de passer quelques pages des aventures dans un autre titre de sa maison d'édition. Et si je prends le cas du lancement du Petit Duc, le pré-lancement avait été fait dans un autre titre qui s'appelait Pipo. Et on voit bien dans Pipo, la toute première page, il était mentionné que le petit duc était originaire de Moldavie. Et quelques jours après, quand le petit duc paraît réellement dans Kiwi, ce n'est plus la Moldavie, mais la Maldoror. Donc l'autocensure était passée par là, vraisemblablement, et pour cette raison, manifestement, Marcel Navarro a cru bon de débaptiser ce pays pour l'appeler Maldoror, et c'est resté ainsi jusqu'à la fin des aventures du petit duc.
Quand on sait ce qu'on soupçonne des raisons de Lautréamont quand il a écrit les chants de Maldoror, ça devient carrément comique, cette histoire de censure là.
Surtout en plus quand on débaptise le chien Wolf, bon, pour une raison que l'on devine, pour l'appeler Rex, tant mieux.
Oh oui,
ça aurait fait plaisir à Léon.
Oui, mais peut-être avant d'aller plus loin dans l'étude de l'œuvre de Devie, on pourrait peut-être écouter Marcel Navarro que j'avais rencontré en 1990 à Lyon avec Gérard Thomassian. Gérard Thomassian, il faut lui rendre cet hommage aussi. Oui,
il faut dire Gérard Thomassian, c'est le propriétaire d'une boutique de la caverne d'Ali Baba, de l'amateur du petit format et de bande dessinée en général, qui se trouve rue de Belzins, à côté de la gare du Nord, et ça s'appelle Fantasmac,
Guise, rue de Belzins.
Et c'est un des plus grands spécialistes de la BD. Il a une collection fabuleuse.
Ah, il a tous
les petits formats.
Quasiment tous, oui.
Il a des centaines, peut-être des milliers, certainement des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'originaux, de planches originales.
Oui, tout à fait.
Des couvertures, les planches originales peintes, des couvertures. Enfin, c'est un trésor. Il est à la tête d'un véritable trésor. Et il est sympathique comme tout. Il est extrêmement féru, passionné par son sujet. Et on espérait l'avoir ce soir, mais il a la mauvaise idée d'habiter à l'autre bout du monde. Et voilà. Pour lui, c'est pratiquement impossible de rester le soir à Paris. Mais si vous allez dans le quartier de la gare du Nord, allez donc 10 rue de Belzins, voir sa toute petite boutique. C'est un véritable bonheur.
À partir de 3h30 de l'après-midi. Hein.
Si vous n'aimez que les auteurs grecs et latins, c'est pas là qu'il faut aller.
Donc, j'ai rencontré Marcel Navarro avec Gérard Thomassian en 1990 et il nous a parlé, entre autres, de la naissance du Petit Duc.
Il me fallait un dessinateur. Il se trouvait que j'ai demandé à Alpe s'il connaissait un dessinateur. Et on m'a dit, ah oui, il y en avait un, mais il est bizarre, il est parti, on ne l'a plus, mais on a son adresse. Monsieur Martini m'a dit, j'ai son adresse. Nous convenons d'un rendez-vous. On se rencontre le soir sous les galeries, très tard, vers 11h du soir, et en marchant, je lui explique mon personnage, je lui dis, voilà, j'ai écrit 2-3 épisodes, je vous les confie, si ça vous intéresse. Et il me dit, oui, c'était un personnage, c'est bizarre. Il était petit et gras, mais très gras. Assez laconique, parlant peu, évidemment, puisqu'il était laconique. Et il m'a envoyé son premier épisode. J'ai trouvé ce dessin assez bizarre. J'ai trouvé vieillot, d'abord. J'ai trouvé vieillot. Ensuite, mais il se dégageait une poésie, un charme prenant. On ne savait pas expliquer pourquoi, parce qu'au fond, le personnage du petit duc, Mirko, il était un peu banal avec sa houppe un peu désuète, ça marquait les années 40, un petit peu. Moi, j'étais pas convaincu.
Il y a les décors, il y a l'ambiance, il y a les fournois.
Ah, mais ça. Et puis alors, c'était un manieur du noir extraordinaire, des blancs et des noirs formidables. Et tout à la plume, il n'y avait pas de pinceau. Et puis alors, c'était élaboré, c'était travaillé. Il chiadait son premier plan. Il fallait donner de la perspective, donner d'épaisseur à tout ça. Et il savait le donner. Et il travaillait vraiment. Il avait vraiment une plume en or. De Vita avait une plume en or. Et moi j'ai écrit beaucoup d'épisodes. Après, à un moment donné, je lui ai dit, mais si vous pourriez m'écrire quelques épisodes. Il m'a dit oui. Et puis alors, il en a écrit. Puis alors, il s'est étalé. Vous vous souvenez, la jungle? Mais je trouvais ça quand même bon. J'ai dit, mais j'ai vu ça dans le précédent épisode. Mais j'ai vu ça dans le suivant, et ainsi de suite.
Voilà, c'était Marcel Navarro.
Alors, ce qui est très amusant, je regardais Jean-Yves Guerre pendant qu'il écoutait Navarro, et alors, il avait des mimiques qui étaient parlantes, c'était une véritable bande dessinée. Alors, on voyait qu'il n'était pas du tout d'accord sur certaines choses, mais ce qui est amusant, c'est de voir à quel point les points de vue sur un sujet unique peuvent diverger d'une façon radicale. Par exemple, quand il dit il avait un dessin vieillot, Navarro, c'est quand même un grand pro de la bande dessinée. S'il dit que quelqu'un a un dessin vieillot, on a tendance à le croire. Or, moi, mon opinion, je pense qu'on est tous d'accord, c'est qu'au contraire, De Vita, c'est un des dessinateurs les plus extraordinairement modernes de cette période-là. Et on disait tout à l'heure que c'est un précurseur d'Hugo Pratt, ouais, par la façon dont il utilise les aplats noirs, etc. Et puis, c'est aussi un personnage à la... Enfin, c'est un dessinateur dans le style de Hogarth.
Oui, dans les attitudes.
Dans les attitudes,
tout à fait. Hein.
Donc, à la fois un virtuose...
Cette exagération dans les mouvements.
Oui, les mouvements très exagérés, ouais, mais toujours très justes anatomiquement. Ouais. Encore qu'il y a un gag dont on parlera tout à l'heure, c'est la fameuse main... Main tordue.
Mais oui. Mais effectivement, bon, enfin, dessin vieillot, à l'époque déjà, je ne trouvais pas, puisque de toute façon cette bande a eu un succès extraordinaire. Mais il faut quand même dire que Le Petit Duc est actuellement, aujourd'hui, réédité dans le même titre, dans Kiwi, certes, mais réédité. Et je corresponds actuellement avec Internet, enfin par Internet, avec de jeunes dessinateurs de petit format, qui ne connaissaient pas vraiment Le Petit Duc et le dessin de De Vita, et qui ont été, comme moi, qui ont accroché et qui ont été émerveillés du dessin de De Vita. Preuve que, à mon avis, ce dessin n'est pas vieillot, comme le mentionnait Marcel Navarro. D'où la mimique que je devais faire.
Alors, autre moment où vous avez réagi, c'est quand il a dit il était tout petit et gras, très gras.
Oui, c'est ça.
Alors, évidemment, c'est pas le même que vous avez rencontré, vous.
Non, effectivement, mais bon, il est vrai aussi que Navarro l'a rencontré en 1955, moi je l'ai rencontré en 2001, c'est vrai qu'il y a plus de 40 ans qui se sont passés, mais d'après les photos qu'il m'a montrées de lui, pour moi, ce n'était pas vraiment quelqu'un de gras. Oui. Bon, il était un petit peu poupin, vers 35 ans, il avait un visage un peu poupin, mais par la suite, à 40, 50 ans, bon, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus fin de visage.
Alors, on va revenir à ça quand même. Je ne veux pas couper l'herbe sous le pied de Guy Le Hideux, mais il y a un mystère, il y a eu un mystère.
Il y a eu un mystère.
Alors ça, c'est... Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la BD autrement que comme simple petit lecteur enfant, j'ai tout de suite cherché, notamment quand j'allais dans les grandes réunions de bandes dessinées, dans les biennales ou les choses comme
Musée des Arts Décoratifs,
ou Arts Déco, avec Moliterni, avec Coupry, etc. Voilà. Je leur disais, mais De Vita, alors De Vita, où il est, où est-ce qu'on peut voir ce type? Parce que j'étais fasciné par lui, par son œuvre. Et il me disait, ah, De Vita, on ne sait pas, il a disparu, c'est très mystérieux. Alors, il y avait une légende noire qui courait sur De Vita, on disait qu'il avait été très engagé dans l'Italie fasciste, et puis que ensuite il avait été obligé de se cacher, ce qui était d'ailleurs totalement idiot, puisque il est devenu dessinateur dans les années, il a exercé son talent dans les années 50. Donc s'il avait été obligé de se cacher à la suite du fascisme, il n'aurait pas exercé son talent dans les années 50, il aurait été caché. Mais ça fait rien, ça entretenait autour de lui, et puis sa disparition mystérieuse. Et ça entretenait ce mystère. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce personnage, ce nom curieux, de Vita, oui. Bon. On savait que c'était un Italien, mais d'où, de Sicile, de Sardaigne, de Dépouille, on savait pas trop. Et puis un jour, voilà, que je lis, je sais plus où. Si c'est sur Internet, d'ailleurs, parce que je vais sur Internet et je tape, comme de temps en temps je le fais, Mirko, pour voir s'il y a des choses nouvelles sur mon idole. Et je tombe sur une page qui a été faite par par Jean-Yves Guerre.
Oui, alors effectivement, j'avais fait déjà depuis 3-4 ans un site internet sur sur Davy et sur son sur le petit duc, de même que sur l'ensemble de son œuvre depuis 1998-1999 et bien avant que je redécouvre Davita. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière quand même quand Marcel Navarro disait par rapport à ce dont on vient ce qu'on vient d'entendre là, disait que c'était quelqu'un de taciturne, de d'assez laconique, etc. Effectivement, c'est la légende qui a couru sur lui pendant des années. Mais je voudrais rectifier en mentionnant que quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un de tout à fait normal, de tout à fait comme tout le monde, et qui parlait de façon tout aussi prolixe que n'importe quelle autre personne.
Il faut dire aussi que le métier de dessinateur de bande dessinée, ça porte pas à la conversation, parce que
non.
C'est des gens qui sont toute la journée sur leur planche, et par contre ils parlent pas, et ils finissent par acquérir l'habitude du silence. Tous ceux que j'ai connus sont des gens assez taciturnes, certains sont plus bizarres que les autres, mais ils sont finalement pas très 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 bavards. Je vois les grands dessinateurs, des gens comme Fred,
Franquin, des gens comme était aussi
Franquin était oui. Autiste, lui, c'est
oui,
encore
c'est
autre chose.
Oui, oui.
Mais un garçon, enfin un homme comme Fred ou des gens comme Giraud, comme Druyet, oui, comme oui. Leroux, par exemple, Leroux oui. Était un garçon d'une extrême discrétion. Il parlait très peu. Il fallait vraiment qu'il soit entre amis, en confiance, pour parler.
Non, il y a que les scénaristes qui sont très bavards.
Ah, ça, qu'il dit.
Bon.
Sinon, oui, je voulais également revenir sur le point concernant l'origine du petit duc.
Oui.
Alors effectivement, Marcel Navarro mentionne là dans le petit extrait qu'on a entendu qu'il avait créé le personnage du petit duc et qu'il l'avait proposé à De Vita. Bon, en réalité, Marcel Navarro cherchait à créer, à faire pour sa maison d'édition Lug. Chercher un dessinateur italien pour créer une bande un petit peu comparable à la fameuse bande d'une autre dessinatrice italienne qui s'appelle Lina Buffolente, oui. Une autre bande qui s'appelait Le Petit Roi et qui est parue en France dans Bricquiac dont
oui.
A parlé tout à l'heure Guy Le Hideux. Et il avait commencé à créer le synopsis et le premier épisode d'une histoire qui s'appelait Le Petit Tambour de Napoléon. Et c'est cette histoire en réalité qu'il a proposé à Antonio De Vita. Et De Vita, lui, cette histoire ne l'intéressait pas trop, et il a refusé cette histoire. Il a répondu à Marcel Navarro, bon ben je veux bien faire quelque chose, vous me donnez une piste, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme héros, et je vous le fais. Navarro a été un petit peu peut-être surpris de sa réponse. Et à ce moment-là, il a rebondi en disant « Bon, ben voilà, je voudrais l'histoire d'un jeune héros, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, d'origine noble, qui soit pris dans un conflit contemporain et à qui il arrive des tas d'aventures. » Et de ce fait, Antonio De Vita a créé lui-même, et ça, il me l'a affirmé lorsque je l'ai rencontré, a créé lui-même le petit duc. Mmh.
Alors, donc la création du personnage c'est De Vita, mais les premiers scénarios c'est quand même
non,
Navarro.
Antonio De Vita revendique également la paternité des premiers scénarios, ah. Oui, de revendique toute la paternité du petit duc. Et lui, enfin, je
c'est mais, ce mais Navarro aurait quand même écrit les scénarios.
Sur le petit duc. Non, c'est non. Navarro a proposé à De Vita le petit tambour de Napoléon
que De Vita a
refusé.
Oui.
Bon, maintenant.
Ça c'est du détail anecdotique, mais
voilà.
Il reste.
Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que tout de suite, De Vita a fait rentrer son héros. Après quelques épisodes sur ce conflit contemporain qui ressemblait un petit peu à la Seconde Guerre mondiale, il a fait entrer son héros dans des mondes complètement imaginaires, avec des mondes décalés dans le temps, avec des précipices insondables, comme vous le disiez tout à l'heure. Et il a fait évoluer ce petit héros partout Vous parliez de murs cyclopéens et de châteaux extraordinairement avec des pierres de taille extraordinairement grosses, mais il a fait également évoluer son héros dans des forêts extraordinairement touffues comme la forêt amazonienne, voilà. Puisque vers la fin il recherche un trésor avec sa sœur et donc toute l'action de la fin se passe dans ces décors touffus d'arbres extraordinairement feuillus ou qui cache toutes les personnes.
Mais alors c'est un peu contradictoire d'ailleurs avec ce qu'il fait au début, parce qu'au début c'est très dépouillé, c'est des paysages nus, un paysage minéral, complètement minéral. Et puis à la fin, peut-être avec l'âge, à mesure que ses cheveux tombaient, il s'intéressait de plus en plus aux arbres. On ne sait pas, mais en tout cas ça devient beaucoup plus fourni. Et ce qui vous mettez en lumière, là je pense aux amateurs du Petit Duc, je sais qu'il y en a beaucoup, ce que vous montrez bien dans votre livre, c'est la façon de... l'authenticité du travail de Vita. Par exemple, il y avait une scène qui m'avait frappé quand j'étais enfant, c'était on le voit descendre en courant un escalier dont les marches sont absolument démesurées. Et on se dit, il peut pas y avoir un escalier au monde avec des marches comme ça parce que c'est des escaliers de géants. Et vous publiez la photo de l'escalier en question.
Eh ben si, des escaliers comme ça, ça existe. Il faut dire que De Vita est d'origine calabraise et des escaliers comme ça, d'ailleurs il y en a, c'est assez général en Italie, mais particulièrement dans le sud de l'Italie et donc en Calabre. Il y a des escaliers comme ça aux marches inégales et assez hautes pour un petit enfant. Et ce que me racontait De Vita, c'est quand De Vita a été élevé étant petit par sa nourrice, et justement quand il gravissait ses escaliers, il devait s'aider de ses mains pour gravir ses marches inégales, et ça a dû lui rester puisque tous les escaliers qu'il faisait effectivement avaient des marches assez imposantes.
Mais qu'est-ce qui fait que De Vita, quand vous l'avez rencontré, dans son comportement, la façon dont il vous a parlé, ou avez-vous pensé que vous avez trouvé la source de cette inspiration étrange? Parce que c'est un paysage, c'est un milieu, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, les œuvres les aventures de Mirko. Ça n'a rien de commun avec la bande dessinée italienne, ça n'a rien de commun avec tout ce qu'on a connu par ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y a dans De Vita, vous avez trouvé la racine de cette invention?
C'est quelqu'un de très prolixe. C'est quelqu'un qui allait très souvent au cinéma, qui s'intéressait à qui lisait beaucoup. Et qui avait une façon de transposer et de raconter extrême, je dirais. Quand il dit quelque chose, quand il raconte quelque chose, c'est pas vraiment de la demi-mesure en général. Et la façon de dessiner, c'était surtout, ça se voit surtout dans sa façon de dessiner, même encore actuellement, parce qu'il dessine toujours actuellement.
Il a quoi? Il a 85 ans?
Non, il a 80 ans.
80 ans.
Il a 80 ans. Il est quand même bien alerte pour son âge. Et bon, malgré qu'il ait un petit peu d'arthrose à la main, il dessine toujours. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs de ses dessins. Mais à l'époque, ce noir et blanc, ce contraste qu'il avait fait, c'était une façon à lui de retranscrire l'extrême d'une situation. Il estimait qu'un personnage, quand il donnait un coup de poing, il devait y avoir un mouvement. Et ce mouvement se concrétisait par des postures extraordinaires.
Ah oui, ça c'est l'avenir regarde.
Quand Mirko courait, en fait, Mirko, il enjambait, il ne courait pas.
Oui, il court comme un coureur de steppe.
Voilà, exactement.
Mais à ça, très grandes enjambées, avec des bottes de 7 lieues.
Tout à fait.
Quand il saute un précipice,
Précipice, bon, mais les jambes sont écartelées. Son tuteur Stanka, qui était très fort, qui était un homme imposant, donnait un coup de poing à un soldat, par exemple, le soldat était cul par-dessus tête, si on peut dire, projeté contre... Et c'était sa façon à lui, et c'est peut-être ce qui émerveillait les enfants de l'époque, moi en tout cas c'est ce qui me subjuguait, c'est ces mouvements perpétuels qui existaient dans cette bande. Et il n'y avait aucun repos dans toutes ces histoires, que ce soit le Petit Duc, mais que ce soit aussi les autres de ces bandes françaises, notamment l'Aigle de Clermont.
Alors un auditeur nous demande si c'est De Vita qui faisait les scénarios de l'Aigle de Clermont et du Chevalier d'Armental.
Tout à fait, c'est De Vita qui faisait les scénarios de ces deux œuvres. Alors, le Chevalier d'Armental, bon, c'est une bande assez courte, qui était parue à l'époque dans Pipo, est inspirée du roman d'Alexandre Dumas. Également l'Aigle de Clermont, mais simplement pour les premières pages, parce que très vite, De Vita a fait évoluer l'Aigle de Clermont comme Mirko, vers des mondes inconnus, exotiques. Mmh. D'ailleurs, Alexandre Dumas, lui, faisait mourir son héros dans le roman. C'était La Dame de Montsoreau. Voilà, je cherchais le titre. Le roman d'Alexandre Dumas, dont s'est inspiré De Vita, c'était La Dame de Montsoreau. D'ailleurs, il y avait une trilogie. Il y avait La Dame de Montsoreau, Les 45, et puis La Reine Margot, je crois. Mais De Vita, lui, a fait continuer à vivre ce héros, Bussy d'Amboise, et il lui est arrivé des tas de péripéties. D'ailleurs, comme la bande, comme L'Aigle de Clermont en réalité, parce que L'Aigle de Clermont a eu quatre parties, deux qui sont parues en 1955-1956 de façon assez suivie. Puis il a fallu attendre 3 ans pour voir la troisième partie de L'Aigle de Clermont, et ensuite 17 ans pour lire la quatrième et dernière partie de L'Aigle de Clermont.
Alors, vous allez nous rappeler, Jean-Yves Guerre, le titre de votre ouvrage et comment les auditeurs peuvent le trouver.
Alors, mon ouvrage s'appelle « Le mystère de vie dévoilé » et ils peuvent se le procurer en m'adressant un petit courrier avec un chèque de 20 euros, port compris, à l'adresse suivante, donc Jean-Yves Guerre, comme la guerre, G-U-E-2-R-E, mon adresse 14 chemin de Louversé. Alors j'appelle Louversé L-O-U-V-E-R-S-E-Y, code postal 27190 et le village Ferrières-au-Clocher.
Ferrières-au-Clocher,
comme une ferrière.
Avec un S au bout.
Avec un S au bout. O-H-A-U-T, la hauteur, puisque c'est un clocher qui doit dominer le plateau où j'habite. Au clocher, comme un clocher d'église.
Alors, ce livre, c'est un beau livre, c'est un livre broché.
Il est bien illustré, il y a même de la couleur.
Il est illustré avec de belles couleurs, parce qu'à la fin, il y a des illustrations que fait aujourd'hui De Vita, voilà. les peintures que fait De Vita. Et il est très très bien illustré. Il est passionnant à lire, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le personnage et sur l'auteur. Et c'est un format très agréable, ce format album.
Oui, un format à quatre.
Album souple, oui.
Et vraiment, si on a aimé, comme moi, et comme beaucoup de gens de notre génération, Guy...
Tout à fait, et puis c'est quand même une grande page de l'histoire de la BD, qui est souvent ignorée par les spécialistes, et ça, c'est dommage.
Il faut avoir ce livre dans sa bibliothèque.
Est-ce qu'on le trouve en librairie?
Non, parce que j'ai édité ça à compte d'auteur. Allant un peu à l'aveuglette, je ne savais pas trop... J'ai tiré environ 200 exemplaires de cet ouvrage.
Alors en plus, c'est un tirage restreint.
Restreint, pour tout les à fait, oui.
Jean-Yves Guerre, le mystère des vies dévoilées, c'est-à-dire le personnage de Mirko et l'histoire de son auteur De Vita. J'ai pas beaucoup donné la parole à Fersan. Vous n'avez publié vos lettres Arverne?
Oui, le numéro 3 des lettres du Libre Arverne est sorti. Voilà, il est aussi bon que les deux autres.
Bah, c'est bien.
Un peu meilleur.
Ah bon, ça vaut mieux encore.
Donc, pour les auditeurs qui s'intéressent, c'est un hebdomadaire qui paraît chaque semaine. Je tiens à le préciser.
C'est parce intéressant.
Depuis qu'il y en a qui vendent des quotidiens qui paraissent chaque mois, je précise. Donc, 10 pages. Alors, on peut avoir un exemplaire de démonstration en m'écrivant aux publications Henri de Fersan. 4 routes de Bournazet. B-O-U-R-N-A-Z-E-T.
Comme la veste rouge, mais avec un T à la place du L.
Voilà. Bellevue, c'est le lieu dit. 63 870 Orsine. Je précise que le prix de l'abonnement est de 156 euros pour 52 numéros.
63 870 Orsine.
Parce que j'ai perdu le fil, là.
63 870 Orsine.
On est en retard, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Bekech assisté de Victoria, document d'archives du 13 novembre 2002, rediffusé dimanche 31 juillet 2011 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Votre gloire est immortelle, volontaires et officiers blancs. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.